Voilà, c'est parfait, tout est parfait. Voilà, je vais faire sonner ce gong juste pour que nous mettions nos consciences ensemble à écouter, pour joindre nos esprits maintenant dans ce but-là, d'être simplement présent à cet instant, à ce moment-là qui est unique. Merci. Voilà, petit problème d'enregistrement, mais sans conséquence, sans gravité aucune. Tout ça est parfait. Alors, je vais introduire en quelques phrases ce groupe. Et en premier, je citerai 5 phrases d'un cours en miracle qui disent des choses relativement simples. Mais qui pour moi sont d'une importance fondamentale. Elles disent « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Voilà, et ces 5 phrases me rappellent bien que c'est pas moi qui dirige la soirée avec mon mental, mais plutôt, ensemble, nous laissons la soirée se dérouler au mieux, en étant soigneusement guidés d'instant en instant, à prendre la parole ou à nous taire, à dire des choses qui nous sont inspirées et à laisser les choses se faire sans interférer avec le mental, avec « je pense ceci » ou « c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort ». Voilà, nous choisissons tous d'être heureux ce soir plutôt que d'avoir raison, et de laisser la voix juste, l'esprit juste, parler à travers nous. Et c'est étonnant, les phrases qui peuvent être dites lorsque nous pouvons laisser la première place à l'esprit et prendre la seconde. Et la seconde, c'est simplement être le porte-parole de ces idées qui naissent dans mon esprit, sans que je sache vraiment pourquoi. Et puis de les laisser se développer d'elles-mêmes. Alors, dans ces groupes, nous disons souvent une phrase très simple, nous disons souvent « Dieu est ». Et « Dieu est », c'est « Dieu est tout ce qui est, de toute éternité ». On ne dit pas « Dieu a été » ou « Dieu sera », mais « Dieu est maintenant, en cet instant ». Et comme Dieu, dans cet esprit d'unité, représente la totalité de l'existence, ça induit automatiquement que Dieu ne s'oppose jamais à rien, parce qu'il s'opposerait à lui-même. Et donc ça, c'est extraordinaire comme implication, parce que si Dieu ne s'oppose à rien, Dieu est pur amour, pur accueil, et Dieu ne juge jamais rien. Dieu accueille tout, puisqu'il n'y a rien à part Dieu. Donc nous allons témoigner ce soir, ou pas, de ce sentiment d'être connecté à cette existence à travers Dieu est, à travers la réalité de Dieu, ou de nous sentir par moments ou même souvent séparés de l'existence ou des autres à travers la dualité, à travers des sentiments, des émotions, des situations conflictuelles, les manifestations de l'ego. Tout ça est parfaitement à sa place dans cette soirée. Tout ce qui est apparemment séparé a juste besoin d'être corrigé avec la vision juste de l'unité. Donc ça pourra être éclairé, réinterprété avec l'esprit juste pour servir de base à une compréhension, à la compréhension de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, hein. Voilà. Et puis j'ai tiré la leçon 358, une des dernières, de Un cours en miracle, qui dit: nul appel à Dieu ne peut être inentendu, ni laissé sans réponse, et de ceci je peux être sûr, sa réponse est celle que je veux réellement. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux réellement? Voilà. Chacun de nous peut dire assurément et facilement: je veux être heureux ou je veux être heureuse. J'ai très rarement entendu une personne dire: je ne veux pas être heureuse. Mais je l'ai quand même entendu une fois. Ça m'a assez surpris d'ailleurs. Et je suis sûr qu'en creusant un peu, il y a autre chose derrière ça, que je ne veux pas être heureuse. Chacun de nous veut aimer vraiment, être aimé réellement, inconditionnellement. Parfois c'est masqué. Mais le chemin que nous vivons en tant qu'humains sur Terre, à travers des déconvenues parfois, nous rappelle que l'amour est vraiment la première des priorités en tant que ressenti, en tant que bien-être, et que nous faisons parfois même maladroitement énormément de choses pour être aimé, parfois pour être reconnu. Donc c'est de l'amour qui est parfois conditionnel, mais l'amour conditionnel, c'est une version limitée de l'amour inconditionnel. C'est un point de départ. Hein, bien sûr, l'ego joue un grand rôle dans l'amour conditionnel, mais quand je veux être reconnu pour qui je suis, en vérité, en dessous de ça, c'est: je veux être aimé vraiment. Je veux être aimé. Je veux m'abandonner à l'amour. Je veux être aimé sans condition. Mais l'ego peut s'emparer un petit peu de ça pour donner une version différente de ça. Alors ça prend les aspects d'appréciation, ça prend les aspects de reconnaissance, etc. Donc j'ai cité quelques phrases que nous pourrons développer, ou pas, mais qui peuvent être des points de départ, hein, pour une compréhension, je dirais même goûter l'unité depuis l'intérieur, c'est-à-dire partir de ce qui est duel et puis arriver à un sentiment d'être interrelié plus facilement. Voilà, j'ai dit par exemple, j'ai cité: il n'y a que l'amour ou la peur. J'ai cité: identifier l'ego comme la croyance d'être séparé. Ou: réalité et illusion, nos deux niveaux de perception. Ou encore: la vraie guérison est de l'esprit. La nature du voile de séparation. Apprivoiser l'ego et le remettre à notre service. Et puis, le monde subtil est à nos côtés pour nous fournir de l'aide en permanence. Et puis d'autres phrases, hein, je ne les lis pas toutes. Mais en temps utile, ces phrases pourront être développées. Donc, ça peut être extrêmement utile et pertinent d'invoquer des situations de la vie quotidienne, des situations qui peuvent être soit extrêmement agréables, soit difficiles, voire pénibles, terribles, pour partir de cet état de fait et cheminer vers comment trouver la lumière à partir de ça, hein, ou comment étendre cette lumière à partir de telle situation. Voilà, sur ce, bienvenue à tous les partages, bienvenue aussi à tous les silences dans lesquels nous témoignons aussi de notre nature. J'ai parlé.
Moi, j'ai envie de parler d'une chose qui m'est arrivée en venant, et ça m'est jamais arrivé. Et je me suis dit quand même, ça me serait arrivé à un autre moment qu'avant de venir ici, je l'aurais noté, parce que c'est pour moi inhabituel. Et là, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose. Et donc, j'allais prendre le métro et je traversais la rue. Et donc, c'était vert pour les piétons. Et il y a un vélo qui arrive, qui en fait roulait en même temps que les piétons. Et le vélo me fonce dessus. Enfin, c'est-à-dire, on a essayé un peu de s'éviter, mais donc j'ai eu un peu peur. J'ai dit à la jeune fille, mais c'est vert, vous pouvez pas faire attention. Et elle me dit, je m'excuse, et je lui ai dit, et là ça m'est sorti. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas d'excuse. Et je l'ai entendu dire, elle est malade. Et j'ai pris le métro et ça m'a résonné. Je me suis dit, je lui ai dit, vous n'avez pas d'excuses. Et en fait, je n'avais pas de rancœur. J'ai juste eu peur. Je n'étais pas. J'ai réagi un peu de manière animée. Mais en fait, quand je suis rentrée dans le métro, j'ai presque ri et je me suis dit, bon, ben voilà, il n'y a rien. Je lui ai envoyé de la fluidité. Et puis voilà, et puis après, en arrivant dans le métro à l'arrivée, donc au détour d'un couloir, il y avait une dame roumaine qui vendait des magnifiques bouquets qui étaient d'une sensibilité digne, enfin c'était digne d'un grand fleuriste. Et donc j'ai acheté un bouquet et ça m'a mise en joie. Et voilà, je me suis dit qu'il s'était passé des choses dans cette venue. Voilà. Donc ça m'a résonné, mais vous n'avez pas d'excuses. Je me suis dit, waouh.
Oui, merci Virginie. Là, tu touches à quelque chose de très fort et qu'en général, on ne veut pas entendre, y compris dans les groupes dits spirituels. Et souvent, il y a beaucoup d'opposition. Effectivement, est-ce que Dieu s'excuse? Bon, évidemment, on va dire non. Et Avi nous cite toujours, Dieu est tout ce qui est. Le reste n'existe pas. Donc effectivement, ça veut dire que ce qui existe, ce qui est réel, n'a pas d'excuse. Et il n'y a aucune excuse, ça veut dire aussi que le jeu est parfaitement joué et décidé par tous les acteurs. Dans ce qu'on appelle le Christ ici, bon, c'est un vocabulaire, c'est on peut dire c'est le moi intérieur, c'est la réalité que nous sommes, c'est l'esprit que nous sommes, le Christ intérieur, enfin ce que vous voulez. Dieu est tout ce qui est, et tout ce qui se passe entre les personnages de la pièce de théâtre dans laquelle nous sommes, et décider d'un commun accord avec tout le monde. À partir du moment où on a décidé ça en pleine connaissance de cause et dans un amour absolu infini, il n'y a pas d'excuse. On va dire comment, mais alors, j'écrase quelqu'un, effectivement, il n'y a pas d'excuse. J'ai entendu Eric Barret dire en pleine conférence, par exemple, on ne s'excuse pas en écrasant les petites filles. Si une petite fille est écrasée sur la route par un automobiliste, qu'il ait bu ou pas bu, au niveau de l'âme profonde, le contrat a été signé entre les deux acteurs. Et c'est très très difficile d'accepter ça, je sais, c'est pas évident. Donc c'est pour ça, merci pour ton intervention, parce que tu es en train de toucher à quelque chose, comme je dis tout à l'heure, qu'on ne veut pas entendre. Parce que ça peut vraiment paraître insupportable. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est ok, si on veut pas l'entendre, on n'entend pas. On est libre. Dieu n'a aucune obligation envers lui-même. Donc, ça n'est qu'une pièce de théâtre et un jeu. Et si j'ai pas envie d'entendre quelque chose, ben je dis, moi, j'ai pas envie de l'entendre, c'est tout. Donc, ce dont nous parlons ici en non-dualité, c'est pas une petite chose. Hein? Et effectivement, on n'a aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse, puisque c'est choisi entre les personnages, en particulier les relations dites intimes, les relations proches, les relations fortes, les relations qui sont souvent difficiles, avec l'un qui semble avoir un comportement absolument odieux, eh bien c'est fait exprès. Et au niveau de l'âme profonde, ça a été choisi, car le but de toute cette pièce de théâtre, c'est de retrouver qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est le divin que nous sommes. C'est l'un que nous sommes. Donc l'autre, c'est moi. Dans une relation difficile, une relation quelqu'un qui semble être extrêmement, disons, désagréable, méchant, odieux avec moi, en fait, secrètement, c'est moi. Parce que je suis tout ce qui est, nous sommes tout ce qui est, et l'autre, c'est moi. Il y a une pièce de théâtre, évidemment, où on a choisi que l'apparence, c'est pas du tout ça. L'apparence, c'est que l'autre, c'est pas moi. Je perçois quelqu'un, l'autre, et donc, je suis le percevant, je perçois, et ce qui est perçu n'est pas moi, par définition. C'est pour ça que le Courant Miracle parle beaucoup de perception. Et que, ici, dans ce monde de l'ego, on a choisi une perception de dualité. Donc, on a choisi de percevoir une séparation. Cette perception, elle est fausse. Mais c'est ignorant la perception. Et donc, peu à peu, on a une perception qui est corrigée par l'esprit. Donc, c'est une perception vraie. C'est encore une séparation, puisque le percevant n'est pas le perçu, n'est pas ce qui est perçu. Donc, c'est une séparation, mais c'est une séparation consciente. Je sais que je rêve. Je sais que je vois des frères et des sœurs qui semblent ne pas être moi. Mais, quelque part, ok. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ce dont tout à l'heure parlait Avi, c'est-à-dire d'aimer. Parce que ça me parle, ça. Et donc, j'ai envie d'aimer. Et si j'ai un frère ou une sœur qui, finalement, semble avoir un comportement odieux vis-à-vis de moi, ou pas juste, etc., ça peut être aussi bien un policier, ça peut être un douanier, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être un professeur à l'école, ça peut être un conjoint, un enfant, un parent, ce que vous voulez. Mais profondément, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux ressentir l'amour. Et pour ça, je choisis l'amour. Et c'est le seul choix que j'ai. C'est l'amour ou la peur. Je choisis entre la vérité et l'illusion. Et donc dans ce choix, effectivement, je choisis que le jeu est parfait, bien qu'il me semble imparfait. Là, c'est pas nié. Et donc, un automobiliste se met à hurler parce qu'en fait, j'ai voulu laisser passer quelqu'un qu'il n'a pas vu, quelqu'un qui boite, par exemple, et puis il a l'impression que je fais pas attention à lui qui est derrière, ou ça peut être aussi un motocycliste, enfin bref, la personne n'a pas vu. Donc, je semble être victime, la personne a mal vu, et donc m'insulte, par exemple. Mais c'est moi qui crée la situation. Ah, ça change tout. Ça change tout. Et j'ai tiré, justement, Avi disait qu'il avait tiré une leçon. J'ai tiré aussi une des leçons finales, c'est la leçon 335. Je choisis de voir l'état sans péché de mon frère. C'est traduit par « je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère », mais ça veut dire l'état sans péché. Mon frère n'a pas de péché, il joue un rôle parfait, il est totalement innocent. Tout à l'heure, dans ce que Virginie nous partageait avec son expérience avec cette femme à vélo, quelque part, intuitivement, elle a senti. Elle a dit, vous n'avez pas d'excuses, et elle s'est sentie bien avec ça. Effectivement, c'est juste. Elle n'a pas d'excuses, mais ça veut dire, il n'y a aucune excuse à avoir. Le jeu était parfait. Et ce qui est intéressant dans l'expérience de Virginie, qu'elle vient de me partager, c'est qu'elle s'est sentie en paix après ça. Elle n'avait pas de ressentiment, elle a touché à quelque chose d'authentique. Quelque chose, et elle, d'ailleurs, elle nous l'a partagé, c'est drôle, ça m'est arrivé, je sens que c'est important. Alors d'accord, c'est apparemment une petite chose, mais c'est là que ça se passe. Ce dont nous parlons ici, avec OK, on parle courant miracle, on parle enseignement non-duel, etc., mais c'est très concret. On a choisi une vie humaine, Et la vie humaine, ben, c'est que des expériences où j'épluche une pomme de terre, où je suis à vélo, où je traverse un passage clouté, et puis voilà. Et puis, il se passe des choses avec des relations avec mes frères et sœurs, et aussi interaction avec ce corps qui semble m'appartenir, alors qu'en fait, je ne suis pas le corps physique. C'est un véhicule que j'ai choisi, que j'ai imaginé, que j'ai même façonné, fabriqué parfaitement, exactement. Tous ces détails sont soigneusement préparés, comme tout le reste d'ailleurs. La pièce de théâtre est parfaite, elle semble être imparfaite, et ici effectivement on ne vit pas la conscience de la perfection, mais on est perfection. Et donc avec cette perfection, l'autre est innocent. C'est-à-dire, mon frère est innocent, il est impeccable, c'est-à-dire, il n'a pas péché, il ne fait pas d'erreur, et donc il n'y a pas d'excuse. Le jeu est parfaitement joué, et c'est comme si on fait une pièce de théâtre, et puis quand la pièce se termine, le rideau tombe et tout le monde applaudit en disant « mais c'est incroyable, c'est parfait ». C'est parfait dans tous les rôles. C'est parfait dans tous les rôles, y compris les petits rôles. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, justement, les petits et les grands rôles, c'est la même chose. Et donc, ceux qui sont un peu connus, qui sont un peu plus vus, qui ont apparemment un peu de pouvoir, ou beaucoup de pouvoir apparemment, tout ça fait partie d'une pièce de théâtre. Et toutes ces apparences de rôles différents, avec plus ou moins de pouvoir, etc., c'est rien. C'est absolument rien. Et parce que qui nous sommes, c'est infiniment puissant. Donc, un petit clochard sur son banc qui cuve son vin en dormant au soleil de midi, hein, et puis il y a du vomi par terre, etc., il joue son rôle parfait. Et il n'est pas moins ni plus qu'Obama ou qu'un chef religieux ou qui vous voulez, ou vous, ou moi. Et ça, c'est la vérité, c'est qui nous sommes. Donc, effectivement, c'est pas un petit travail ici, c'est pas un petit boulot. Et dans ce travail de reconnaissance, de rappel de qui nous sommes, eh bien, c'est par l'amour que ça se passe. Et l'amour ne fait pas de différence. L'amour est infini avec chacun. C'est pour ça qu'on va dire, mais moi j'ai une relation amoureuse avec tout le monde. Je peux avoir des préférences apparemment, je sais, et on a tous ça. On peut se sentir plus ou moins attiré par telle ou telle personne, ou repoussé par telle ou telle personne. C'est pas nié, ça fait partie du jeu de la pièce de théâtre. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Et là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alors, pas d'excuse, c'est difficile parce que l'ego interprète ça comme on est coupable. Il n'y a pas d'excuse, tu es coupable, il n'y a pas d'excuse. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien à s'excuser. Le jeu est parfait. C'est un jeu d'amour. Vraiment. Tout est amour. C'est pour ça que le cours en miracle va nous dire, lorsque tu ne vois pas l'amour dans le comportement d'un frère ou d'une sœur, tu choisis de voir un appel à l'amour. Tu vas voir, ça va être plus facile. Et qu'est-ce qui appelle l'amour? Mais c'est l'amour, évidemment, il n'y a que l'amour. Donc à la source, c'est toujours l'amour. C'est l'amour qui appelle l'amour. Et qui appelle l'amour dans une vision fausse de soi-même. C'est pour ça que la victime, elle appelle, elle dit « aimez-moi ». Parce qu'elle a l'impression d'être victime. Mais en fait, c'est la situation de victime qui a été choisie. Et le principe de l'ego, qu'on a tous, les 7 milliards que nous sommes, au départ, c'est une situation de victime. Pas de bourreau. Je veux dire dans l'impression, dans le ressenti. Et même un bourreau, il va dire « regardez, regardez comme je suis méchant, comme je suis méchant », parce que quelque part il se sent vil, il s'est regardé comme je suis méchant, comme je... il a besoin de se culpabiliser. Et c'est pour ça que tout à l'heure Avi nous disait qu'il a entendu une fois une personne dire qu'elle voulait être malheureuse, mais c'est justement ça, c'est l'apologie du martyr, de la souffrance, parce qu'on a tellement peur de Dieu, on a tellement peur d'être puni, parce qu'on se voit coupable, que... on ne veut surtout pas être heureux, parce que si on est malheureux, on va pouvoir dire « regardez comme je suis malheureux, regardez, alors ne me punissez pas hein. ». Et on dit à Dieu « tu vois, je souffre, regarde, je fais pèlerinage à genoux, là, l'hiver, je me gèle exprès, je ne mets pas le chauffage, pour bien montrer que j'en bave pour te faire plaisir ». Voilà, c'est l'apologie du martyr, évidemment, ça n'a aucun sens. Et il est temps de se réveiller maintenant, et de voir différemment ces choses-là, et de voir que Dieu est tout ce qui est, comme dit Avi. Il répète toujours cette phrase, Dieu est tout ce qui est. Et Dieu, c'est le bien sans opposé, c'est la lumière, il n'y a rien d'autre. Et donc nous sommes plénitude, nous sommes abondance. Et quand on parle de guérison, quand on parle de changement, c'est dans une pièce de théâtre. En réalité, il n'y a personne à guérir, il n'y a personne à pardonner. Néanmoins, le pardon, c'est une illusion peut-être, mais c'est la seule illusion qui nous aide à sortir de l'illusion. Une illusion, c'est une vision intérieure. Une illusion, qu'est-ce que c'est qu'une illusion? C'est voir quelque chose qui n'est pas réel et croire que c'est réel. C'est tout. Si je suis dans le désert, je vois à l'horizon de l'eau, hein, on a soif, et en fait, c'est la réflexion de la chaleur sur le sable, c'est tout. Mais il n'y a pas d'eau. Ma vision est fausse. Je crois qu'il y a de l'eau, mais il n'y en a pas. Eh bien, c'est pareil pour la séparation. Je crois que la séparation, et effectivement, on a choisi exprès cette expérience de séparation, on a fait un effort considérable pour donner une réalité à la séparation, pour s'amuser comme un jeu. Et qu'est-ce que ça serait si on n'était pas qui nous sommes? Et c'est tout. Mais en réalité, il n'y a pas de séparation. Seulement, c'est très très bien fait. Encore une fois, on le répète, c'est fait avec tout notre art divin. Et donc, l'illusion est remarquablement faite. Et pour en sortir, la seule façon, eh bien, c'est de jouer le jeu de l'amour et non plus le jeu de la peur. Et c'est l'amour lui-même, c'est qui nous sommes qui se révèle à lui-même. C'est vraiment pratique, c'est concret. Ça suppose évidemment la confiance. Alors, une fois, on revient toujours à ces notions, parce que je suis obligé d'avoir confiance. Mais qu'est-ce qui va m'aider à avoir confiance? Ma décision de voir clair. Ma décision d'arrêter ce jeu qui ne marche pas. Ce jeu de la séparation. Ma décision de m'ouvrir à l'amour, d'ouvrir mon cœur et dire, ok, d'accord. Eh bien, je reconnais que ma vision est fausse. J'ai des rancœurs vis-à-vis de tel frère, telle sœur, j'ai l'impression d'être victime du monde, victime du système social, victime du système religieux, etc., ce que vous voulez. Ok, victime des autres, je suis pas compris, d'accord, j'accueille ça. Mais Dieu, l'Esprit, un sage, il est en paix. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais c'est ma paix. C'est qui nous sommes. C'est ça que je veux. Donc je prends cette décision de choisir qui je suis, qui nous sommes, qui est Dieu. Dieu est tout ce qui est. C'est ça que je veux. Je demande à cela, avec un C majuscule, cela, je demande à cela de se révéler à moi. Encore une fois, ça demande la confiance. Mais peu à peu, je clarifie mon désir profond. Et tout à l'heure, Avi me disait, qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, je veux ça. Je décide de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, presque d'une manière permanente, ce que je veux. Je veux voir par-dessus tout. Et je retrouve là une des premières leçons du cours qui dit, par-dessus tout, je veux voir différemment. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois n'offre rien de ce que je veux. Néanmoins, derrière le monde que je vois, il y a un monde que je veux. Et c'est pas un monde, un autre monde, c'est la façon dont je vais voir ce monde. Donc je demande à l'amour de me montrer sa vision. Il a dit, montre-moi ta vision. Voilà, montre-moi ta vision. Et tout à l'heure, Avi nous parlait de prendre la deuxième place. Eh bien, je prends la deuxième place. En fait, il n'y a qu'une place, puisqu'il n'y a que Dieu. Et le cours nous dit, d'ailleurs, tu prends la deuxième place pour avoir la première. Mais il n'y en a qu'une. Et en fait, la première, on l'a déjà. Simplement, on l'a oubliée. Parce qu'il n'y a pas de deuxième place, en fait. Donc c'est apparemment... Je laisse l'esprit guider la route. Mais l'esprit, c'est moi. Mais je l'ai oublié. Donc, je laisse l'amour que j'ai oublié me guider. Alors, on va dire, mais puisque tu l'as oublié, tu laisses l'amour te guider, donc tu laisses quelque chose que tu connais pas. Effectivement, c'est tout. C'est pour ça qu'on parle de confiance. Absolument. J'ai oublié vraiment ce que c'est que l'amour pour jouer ce jeu de la séparation. Donc, quelque part, je suis obligé, j'ai pas le choix de ne pas avoir confiance. Mais c'est mon cœur qui parle, mon cœur va dire, mais je sais que c'est juste, je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je sens de plus en plus. Mon cœur m'appelle, pas ma tête, mon cœur. Donc effectivement, là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien à excuser, il y a tout à aimer et à accueillir. Et donc la cycliste qui arrive et qui... même va peut-être m'injurier, pas m'injurier, peut-être me rentrer dedans, j'en sais rien. C'est moi qui ai créé la situation. Je prends donc la pleine responsabilité de toute mon expérience. Pourquoi? À cause de qui je suis. Il n'y a rien d'autre que Dieu, donc il n'y a pas d'erreur. Et donc le divin choisit son expérience. Et Dieu choisit une expérience multiple à l'infini de milliards de facettes de petits personnages sur cette planète. Mais c'est toujours la source qui vit les petits personnages que nous croyons être. Et la source, c'est nous. Est-ce que la source s'excuse face à elle-même? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc c'est pas facile. Et pourtant, c'est d'une logique implacable. Pourquoi? Parce que Dieu est tout ce qui est. Et il n'y a que Dieu. Il n'y a que la vérité, il n'y a que la réalité. Le reste est une illusion. C'est pour ça, encore une fois, comme dit la courte introduction d'un cours en miracle, qui dit, ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Donc, rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. J'existe. Mon frère existe. C'est pas menacé. Pas d'excuse. Que de l'amour. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je choisis. Je choisis quand? Demain? Non. Maintenant. Et qui choisit? L'autre? Non. Moi. C'est pour ça cette question. Qui? Ben, c'est moi. Quand? Maintenant. Parce que c'est toujours maintenant. On ne vit que l'instant présent. Et les autres, c'est pas mon affaire. C'est ma vision qui importe. Donc je prends la pleine responsabilité de mon expérience et je demande à l'esprit de changer ma vision. Et quand l'esprit change ma vision, je vois tout le monde sauvé avec moi. Je vois tout le monde un avec moi. C'est pour ça que le cours va nous dire, par exemple, lorsque tu guéris, tu n'es pas guéri seul. Parce que tu vois tous les autres guéris avec toi. Tout le monde est guéri, mais il y a un rappel de la guérison qui a toujours été là. Il y a un rappel de l'unité qui a toujours été là. C'est pour ça qu'on ne s'occupe pas des autres. Bien sûr, on va s'en occuper, on va les aimer, on va les cajoler, on va les écouter. Mais profondément, on s'occupe de notre vision intérieure. Et c'est le cadeau qu'on fait aux autres, c'est en leur redonnant leur déité, en leur redonnant qui ils sont. Et c'est ce fameux namasté indien, namasté, je te salue, je reconnais qui tu es, que tu es la lumière. Tu es la vie. Tu es Dieu lui-même exprimé. Tu es la manifestation de Dieu. La création de Dieu, c'est-à-dire l'extension de Dieu. Voilà encore une fois un concept important dans le cours en miracle. Dans le monde divin, le monde, le seul monde réel, la création, c'est une extension de soi-même. Dieu, la vie, s'étend elle-même dans sa création. C'est pour ça que nous sommes cette création. Nous sommes l'extension de la vie. Nous sommes la vie qui se vit elle-même. Alors, où sont les excuses? Ben, il n'y en a pas, évidemment. Et c'est le cœur qui va parler, c'est le cœur qui commence à vibrer, c'est le cœur qui commence à reconnaître tout ça, et qui s'émerveille, et qui commence à se réjouir de plus en plus, et qui vit des expériences de plus en plus miraculeuses. C'est pour ça que c'est pas étonnant que ce livre un peu bizarre, ce gros livre de 1300 pages, s'appelle Un cours en miracles. Et les miracles, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, c'est quelque chose qui vient spontanément. Un miracle, ah ben, je sais pas, ça, on comprend pas. Ça ne se manipule pas un miracle, ça s'observe. Ça s'observe. Et le cours nous dit, les miracles se produisent naturellement lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. Qu'est-ce qui est faussé? Ma vision intérieure. Et quand ma vision intérieure se change, je commence à voir des miracles partout. Ils ont toujours été là, quelque part je transcende le temps et l'espace. Mais ça c'est au-delà des mots. Et lorsque je fais ça, ma vie change, peut-être apparemment rien ne change vraiment, mais en profondeur oui, c'est totalement différent. Et il y a un état de paix qui s'installe, un état de paix qui est, on va dire, bénéfique, non seulement pour moi, mais pour tous mes frères et sœurs. Et c'est ce que nous sommes venus vivre ici ensemble, sur cette planète, et spécifiquement, là, en ce début du troisième millénaire, dans cette époque particulièrement bénie et attendue depuis de très nombreux millénaires. C'est une question de choix d'amour dans l'instant présent. Et c'est toujours l'instant présent. Quand? Maintenant? Qui? C'est moi. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit, combien il en faut pour sauver le monde? Un seul suffit. Qui est ce un seul? Eh bien, c'est moi. Et chacun répond, mais c'est moi. Vous voyez? Donc ça, c'est... On commence à être au-delà des mots, et pourtant, c'est bien concret. C'est bien concret. Ça touche toutes les situations de la vie.
Enfin, moi, en ce moment, je suis dans une pièce de théâtre où c'est la guerre. Et... Enfin, c'est la guerre, quoi. C'est... Donc, c'est tout sauf l'amour. Voilà, et je vois l'humain dans ce qu'il y a de plus... C'est un peu voilà enfin évidemment comme l'autre et moi je suis l'autre voilà aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur je vois l'humain dans ce qu'il y a de plus vil plus sale de plus haineux de plus enfin bon voilà j'ai reçu un mot là récemment de mon voisin enfin, j'exagère beaucoup quand je dis ça. Mais bon, pas grave. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer. J'ai tellement... Ouais, ce qui est dur, en fait, c'est que j'ai tellement conscience d'être de l'autre côté de la pièce, enfin, de voir la pièce. Et en même temps, j'y suis complètement dedans. Donc, c'est très... Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le bon truc et je trouve que c'est assez désagréable à vivre. Parce que tout ce que tu dis, je le sens, je le sais, c'est une évidence. Je l'ai vécu, et je le vis régulièrement. Et après, hop, quand je reviens dans la pièce de théâtre, là, c'est la guerre, quoi. C'est pour l'instant, hein, ça va sûrement changer, mais pour l'instant, je suis dans. C'est le conflit, quoi. C'est le conflit, c'est la guerre, c'est la. Et je peux recevoir des choses assez, assez violentes de la part. Enfin, par exemple, là, j'ai reçu de la part de mon voisin quelque chose, un mot extrêmement violent qui était complètement disproportionné par rapport à la réalité enfin, concrète de ce qui se passait. Voilà, j'étais portée plainte. Enfin voilà, j'hésite à mettre le papier. Enfin, enfin voilà, je suis que dans des choses comme ça. Pareil, je dois régler j'ai que des choses de conflits à régler pour récupérer ma dignité. Je dois régler des choses avec une école de formation parce qu'on m'a manipulée, on m'a abusée. Là. Je dois régler un truc avec une société d'internet, parce que là aussi je me suis fait complètement entourlouper. Voilà. Donc, je suis vraiment dans des. Enfin. Je suis dans les bas-fonds, quoi. Les bas-fonds de l'humain. Ça me donne chaud quand je dis ça. Enfin, c'est atroce, quoi, parce qu'en même temps, j'ai tellement vu aussi la lumière, je sais tellement que l'humain peut est autre chose, que je suis autre chose, que cette espèce de... Enfin, ça fait un bout de temps que j'en parle ici, mais ça continue, quoi, pour l'instant, et c'est assez... c'est fatigant, quoi, hein, ça me... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment la vie, c'est comme si la vie me proposait pour l'instant, alors dans ma pièce de théâtre, mon chemin, je sais pas comment on l'appelle, mon plan... Ce qui m'écrit, c'est voilà, on m'a montré, alors tiens, regarde l'humain dans son plus beau, voilà, dans sa luminosité, dans sa, voilà, j'ai vu ça, et puis après, je vois le, voilà, puis en moi et en l'autre, hein, c'est pareil, enfin, voilà, j'aimerais arriver un jour à, je sais pas, à... C'est une connexion qui se fait pas bien entre le là-haut et puis les bas-fonds. Il y a l'impression d'être soit la cave, soit là-haut, et que entre deux, mon cœur balance. Enfin voilà, justement, il y a un truc comme ça, je pense, qui a à faire, quoi. Une ouverture du cœur qui a à faire, une haine qui doit sortir, et en même temps qu'on me ramène, donc je dois quand même ressortir parce que c'est pas juste, parce que on n'a pas à me traiter, par exemple, comme ce voisin il m'a traité. Je me dis mais non, il me traite de truie alors que je mais c'est presque drôle, hein. Voilà, donc je suis une sale truie, enfin voilà, je sais pas ce qu'il lui a pris, et voilà, tout ça parce qu'il y avait des brins d'herbe et et des... Enfin, en plus, c'était de la nature qui était dans le... que j'avais mis dans l'escalier. C'était... Pour moi, la nature, c'est pas sale. Alors, il y avait de l'herbe et il y avait des brindilles. Donc, voilà, c'était... Pour moi, c'était pas très grave. Mais apparemment, pour mon voisin, c'était... Enfin, bon. Bon, enfin... Ah non, mais si, voilà. Et enfin, non, mais c'est vrai que c'est bien d'en rire parce que sur le moment, ça m'a pas fait rire en fait. Mais si c'est la pièce de théâtre, voilà, en fait, c'est très drôle. Hein. Je suis d'accord, hein, si on sort et qu'on regarde la pièce, on se dit pou pou pou, qu'est-ce que c'est rigolo. Mais voilà, et sur le moment, c'est vrai, voilà, c'est ça, c'est ça en fait, c'est ce truc-là. Moi, j'ai un peu de mal, quoi. Des fois, je sors de la pièce, mais alors, du coup, j'y suis plus. Bah, je crois que c'est ça, voilà. Et donc, j'y suis plus. Et dès qu'il faut que je vive, ben, bah, je m'y remets. Et alors là, j'y suis plus. Enfin, je sais. Il y a un truc que je pige pas, quoi. Il y a un truc que j'ai pas pigé, en fait, que j'aimerais piger, parce que. Enfin, c'est le chemin, je pense. Hein. Un jour, je vais y arriver, mais là, je. Voilà. Merci.
Que la pièce de théâtre.
Cette nuit, j'ai été entre 3h30 et 4h30, j'ai été appelé à me réveiller, à reprendre les 4 messages que certains d'entre vous ont déjà eus, qui ont été canalisés par Sylvain Didelot avec moi, Sylvain Duboulet, en novembre 2010, en janvier 2011, en avril 2011, et en décembre 2011, ces 4 messages ont, et là je vais parler du second, le premier c'est l'importance du oui, en disant, écoutez, nous sommes l'invisible, nous sommes le Saint-Esprit, enfin ils disent pas comme ça, mais nous sommes, et vous êtes incarné en humain, vous avez choisi, vous êtes dans la matière, dans le visible, et nous amenons l'invisible au visible, mais on a besoin du pas inverse, et vous amenez le visible à l'invisible, et... Mais l'action, c'est nous. C'est nous, c'est l'invisible qui se manifeste dans le visible. Et non pas l'inverse. Mais, curieusement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? On a besoin de votre oui. Sans oui, car vous êtes nous, nous sommes un. Et on ne peut pas agir si vous ne dites pas oui. C'est-à-dire si vous n'êtes pas en accueil. Et donc, c'est fondamental. Ça, c'est la première des choses. C'était le premier message donc, qui est venu donc en novembre 2010, l'importance du oui. Et c'est pas étonnant que cette nuit j'étais amené à relire ça soigneusement, j'ai passé une heure dessus, j'étais tout reprendre et j'étais stupéfait, alors que je l'ai déjà relu et relu, partagé je ne sais combien de fois. Et le deuxième message qui est arrivé en janvier 2011, c'était « Vos pensées sont les propositions divines ». Et ça, donc quand je dis « ben, je dis quelque chose qui me plaît pas », par exemple « je suis malade », eh bien c'est une proposition. Je prends, je prends pas. Comment je prends pas? Ben, je suis malade. Je prends, je prends pas. Qui suis-je? Je suis divin. Donc, je dis non. Non. Dieu n'est pas malade. Avi dit quelquefois, Dieu va pas chez le dentiste. Alors, je vais pas chez le dentiste, si. Je vais chez le dentiste, mais j'y vais en tant qu'être humain qui y va joyeusement libre. Et j'y vais parce que je sens d'y aller. J'y vais parce que je dis oui à ce que je sens. Donc, je dis oui parce que mon cœur me dit vas-y. Tout à l'heure, tu viens de nous dire, bien, peut-être que je vais faire un procès, peut-être que je vais porter plainte, mais finalement, je ne sais pas encore si je vais donner les papiers. Effectivement, c'est ce que tu sens. C'est comme si tes pensées sont des propositions divines et tu prends pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas porter plainte, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire un procès. Seulement, tu vas le faire libre. Tu le fais en te tournant le bougie. Je le fais parce que je le sens. Je le fais dans l'amour. Alors maintenant, tu vas dire, oui, mais d'accord, mais en attendant, je suis complètement... c'est très chaotique en ce moment. Eh bien, je peux te dire, c'est chaotique pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Parce que justement, nous sommes en train d'atteindre, de se rappeler cet état, de se rappeler qui nous sommes, c'est-à-dire nous sommes complètement maîtres à bord. Et donc, nous ne sommes plus dépendants de guides extérieurs, de je ne sais pas quoi, de Jésus, de je sais qui, de si on veut. Et ça, c'est notre âme profonde qui nous guide. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait apparemment des perturbations, ou des sensations de perte d'équilibre, de plus savoir où on en est, parce qu'on est en train de vraiment atteindre, disons, se rappeler, parce qu'on n'atteint rien, on ne change pas d'état, mais on se rappelle qui nous sommes, et on reprend la vision de qui nous sommes, où nous choisissons nos pensées sur les propositions divines, où je prends, je ne prends pas. Je suis maître à bord. C'est moi qui choisis mon expérience. Est-ce que j'ai envie de souffrir? Non. Est-ce que j'ai envie d'avoir des problèmes d'argent? Non. Ça ne veut pas dire que je vais avoir beaucoup d'argent. Je n'aurai peut-être pas d'argent du tout. Mais ça ne sera plus un problème. Et c'est là que ça se passe. Ce n'est pas une question de montant d'argent. Est-ce que je veux avoir des problèmes relationnels? Est-ce que je veux un conjoint, une conjointe, une amie, ceci, cela? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux ça? Je le veux par manque? Non, j'arrête ça. Non, non, je suis plénitude. Et donc, j'ai besoin de personne, parce que je suis le tout. Alors, s'il y a une relation qui vient, d'accord, je dis, bien sûr, je ne me coupe de rien. Mais à ce moment-là, c'est une danse, c'est une joie profonde, mais ce n'est pas un manque. Donc, je choisis. Mes pensées sont les propositions divines. Donc maintenant, de plus en plus, à chaque fois que je me dis « Ah, j'ai ça. Ah, j'ai mal au foie. Ah, je vais être victime. Ah, je pars sur les routes, je vais être pris par des radars, par exemple. » Qu'est-ce que je choisis? Non, c'est moi qui crée le radar. C'est moi qui crée le policier. Donc, est-ce que j'ai envie de... Non. Eh bien, j'offre ma conduite. Et puis, si j'ai une contravention, je suis photographié, eh bien, c'est OK, j'ai choisi ça, mais je suis libre. Et donc, je vais commencer de plus en plus à vivre la liberté, à vivre la joie, à vivre la paix. Et ça, c'est plus important de savoir si j'ai une contravention ou pas, parce que contravention ou pas contravention, je serai en paix. Mes pensées sur les propositions divines, c'est le deuxième message. Et puisque j'y suis, ben, je vais allons-y pour le troisième et le quatrième. Le troisième, c'est les règles ont changé. Eh oui, les règles ont changé. Avant, il y avait du karma, etc. Terminé. Maintenant, il n'y a pratiquement plus d'espace entre ce que je choisis. Donc, le passé ne me greffe pas. Je n'ai pas de karma à régler, c'est terminé. Les règles ont changé. Je suis maître à bord, je reprends ma pleine divinité. C'est très clair, c'est très simple. D'ailleurs, si ça vous... je me demande si je ne vais pas, on va pas le remettre avec Avi, je lui en parlerai, remettre ses messages en piste, parce que c'est tellement fort. Moi, ça m'a habité cette nuit, et c'est pas au hasard si je suis amené à en reparler ce soir, ici dans ce groupe. Parce que ça aide beaucoup. Donc, le troisième message, c'est donc, les règles ont changé. Et le quatrième, et ça c'est fantastique, c'est l'activation du troisième brin d'ADN. Et on passe vraiment maintenant, on reste dans la pièce de théâtre, d'accord, mais on reste sur scène, mais on quitte la pièce. C'est-à-dire que on est dans la paix. On n'est plus dans la recherche de prouver qu'on est victime, de prouver que nos peurs, qu'on a raison d'avoir peur. Non, non, ok, je peux peut-être avoir peur, mais je sais que c'est une illusion. Donc, je suis là, je vis mon expérience humaine, je suis toujours sur la scène, et je ne suis plus dans la pièce. Je suis observateur de la pièce. Et si j'observe la pièce, je ne suis pas dedans. Et l'activation du troisième brin d'ADN, vous savez que l'ADN humain, normalement, a 12 brins, et il a été bloqué, il a été réduit à 2 brins. Il fonctionne sur 2 brins, et c'est en train de changer, et on passe à 3 brins. Donc c'est encore évidemment une perception illusoire, c'est encore un rêve, c'est ce qu'on nous dit dans le message. Seulement, c'est ceux qui choisissent de passer au-delà de la perception de l'illusion. Et là, c'est quelque chose qui nous est donné maintenant. Et ce message, il était extrêmement fort. Et je choisis, on est maître à bord et on peut choisir, je choisis de passer au-delà de la perception de l'illusion. Donc je choisis quoi? Je ne choisis pas de l'argent, je ne choisis pas une nouvelle relation. Je ne choisis pas une position sociale, je choisis la paix. Je choisis le rappel de qui je suis. Voilà. Et c'est fort. Donc, merci pour ton intervention, parce que ça m'a rappelé, je reviens au deuxième message, c'est vos pensées sont des propositions divines. Hein, ça a vraiment un sens, c'est vraiment puissant, c'est tout simple, mais c'est puissant. Et j'en parlerai avec Avi, parce que peut-être qu'on peut peut-être le remettre sur son site, s'il y a des demandes, surtout n'hésitez pas à le demander. Et on le fera bien volontiers.
Ce que tu viens de raconter, Estelle, ça me rappelle une expérience que j'ai eue très récemment, où j'ai prêté un ordinateur portable et un téléphone et aussi un livre qui me tenait à cœur parce que c'était un livre dédicacé. Par l'auteur et en fait je n'ai pas répondu aux attentes amoureuses du garçon à qui j'avais prêté ses affaires Et quand j'ai voulu récupérer mes affaires, ben, il ne répondait ni aux mails, ni aux SMS. Et donc, la moutarde commençait à monter au nez. Et en même temps, je me doutais bien que bon, c'était un peu pour par frustration, donc je pouvais comprendre, mais j'aurais préféré qu'ils me répondent et qu'ils me disent, mais écoute, j'en ai encore un peu besoin, est-ce que tu peux attendre un peu? Évidemment, je pouvais attendre, mais alors le silence là, ça commençait à me, enfin, je commençais à trouver ça pas poli, et je me sentais offensée. Et puis le temps a passé, toujours rien. Donc j'ai appelé, j'ai téléphoné à la dame, j'ai prévenu la dame qui l'hébergeait. Elle a dit qu'elle lui faisait le message, qu'elle lui faisait passer le message. Et puis à un moment donné, un matin, j'ai eu une inspiration de, j'en ris encore, de dire que d'envoyer un message comme quoi j'allais lui rendre, parce qu'il m'avait prêté des livres, j'allais lui rendre ses livres et il allait me rendre mes affaires. Alors je précisais bien avec les cordons, enfin c'était très très méthodique, qu'on allait se retrouver à tel métro à telle date. Je lui laissais le choix de l'heure et que si je n'avais pas de réponse de sa part, j'irais porter plainte pour vol car j'avais les factures. Évidemment que là j'ai fait ça parce que j'ai senti aussi que il m'arrive plein d'expériences comme ça en ce moment où je dois poser des limites parce que j'attends que l'autre les pose. Effectivement, on n'avait pas dit je lui avais pas dit tu me le rends à telle date, mais pour moi c'était évident qu'il me le rendait, enfin qu'il y avait un lien et qui c'était en fonction de ses besoins, mais qu'il y avait quand même une communication. C'était pas des objets qui lui appartenaient. Moi j'avais fait un crédit pour acheter l'ordinateur portable il y a quelques années, enfin bon. Et puis un jour là, enfin le soir même, après ce texto, ben il m'a rendu toutes les affaires. Il a dit qu'il était fatigué. Je l'ai remercié. Je n'ai posé aucune question. J'ai juste remercié et je lui avais fait cadeau du sac dans lequel il y avait les affaires. Je lui ai rendu le sac parce que je lui avais donné. Donc je n'en voulais pas. Puis en plus il m'avait prêté un livre qui m'a énormément plu. Et puis voilà, c'est tout était fluide et il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de rancœur. J'avais compris le message. Voilà, je ne lui en voulais pas. Et puis ça m'a permis de poser une limite. Évidemment, j'avais pas envie d'aller porter plainte. J'ai autre chose à faire. Aller porter plainte pour vol. Mais l'inspiration que j'ai eue le matin, c'était de dire voilà, j'irai porter plainte si je n'ai pas de réponse pour vol. Et j'ai senti que ce mot, ça allait un peu déboucher la situation. Et j'ai mis aussi « car j'ai les factures ». Voilà ce que je trouve assez comique. Voilà, parce que j'avais pas envie d'en arriver jusque-là. Et puis à partir du moment où j'ai pris ma position, j'étais dans mon axe, avec des arguments très clairs, mais sans insultes par ailleurs, hein. Et ben ça s'est débloqué. Voilà.
Alors moi, je sens de partager quelques phrases d'un petit livre que je trouve assez extraordinaire, que j'ai découvert il n'y a même pas 2 semaines, « L'Évangile selon Jésus » de Paul Ferrini. Et cet homme, Paul Ferrini, apparemment est assez connu, mais je ne le connaissais pas, il donne des séminaires un peu partout. Et puis il donne une version réduite de l'Évangile selon Jésus gratuitement pour faire connaître. Et j'ai trouvé beaucoup de très belles choses, mais c'est pas seulement des belles choses à lire. J'ai fait la différence entre une chose qui me plaît intellectuellement et une chose qui me rappelle la vérité. Et c'est utile lorsque ça me rappelle la vérité. Et les phrases que je vais vous lire me rappellent profondément la vérité. Voilà, je vais essayer de les lire lentement. Parce que pour moi, ça les fait résonner encore plus. Votre tentative de trouver l'amour à l'extérieur de vous échoue toujours, car vous ne pouvez recevoir d'autrui ce que vous ne vous êtes pas donné à vous-même. Lorsque vous refusez de vous accorder cet amour, vous attirez dans votre vie des personnes qui font de même. L'expérience de l'amour inconditionnel commence dans votre cœur, pas dans celui de l'autre. Ne subordonnez pas votre capacité à vous aimer à celle de quelqu'un d'autre à vous aimer. Ne placez pas votre foi dans les conditions qui entourent l'amour ou dans les formes qu'il prend, car elles sont transitoires et sujettes aux aléas de la vie quotidienne. L'amour vrai ne change pas. Il existe indépendamment de la forme sous laquelle il s'exprime. La source de cet amour éternel, omniprésent, sans forme, est en vous. C'est là que vous devez mettre votre foi, parce que cet amour est la chose la plus solide que vous ne connaîtrez jamais. Une fois qu'il sera bien ancré dans votre cœur, vous n'aurez plus besoin de chercher le bonheur à l'extérieur de vous. Les gens iront et viendront dans votre vie. Certains vous traiteront avec gentillesse, d'autres ne vous en montreront aucune. Vous accepterez l'amour qui est là et verrez l'absence d'amour pour ce qu'il est, l'appel à l'aide d'un être qui souffre. Vous encouragerez les autres à trouver la source d'amour en eux-mêmes, comme vous-même l'avez fait, tout en sachant pertinemment que vous ne pouvez résoudre leurs petits problèmes. La tragédie de leur vie ne peut se résoudre que parce qu'ils veulent bien regarder à l'intérieur de leur propre cœur et de leur esprit. Celui qui aime sans condition ne place aucune limite à sa liberté ou à la liberté des autres. Il n'essaie pas de garder l'amour, car tenter de le garder revient à le perdre. L'amour est un cadeau qui doit constamment être fait selon les modalités définies par chaque situation. Et le donneur sait toujours quand et à qui le cadeau doit être fait. Il n'y a rien de compliqué dans l'acte d'aimer. Cela ne devient compliqué que lorsqu'une personne commence à retenir l'amour. Car alors seul ce qui est offert cesse d'être de l'amour. Celui qui aime inconditionnellement n'aime pas avec une intensité variable ou de manière intéressée. Il ne cherche pas quelqu'un de spécial à aimer. Il aime tout ce qui se présente à lui. Personne n'est plus digne ou moins digne de son amour qu'un autre. C'est la sorte d'amour que je vous donne et que je vous demande de donner aux autres. L'amour ne prend pas en otage. Il ne marchande pas. Il n'est pas teinté de peur. En effet, là où l'amour est présent, la peur et ses myriades de conditions ne peuvent exister. Et puis je reprends une phrase qui disait un peu plus tôt au début, qui parle bien du but de l'âme et du but de l'amour dans l'éveil de l'âme. Et j'ai trouvé que c'était assez parlant pour moi. Il dit, si l'âme s'éveille à la vérité que sa valeur ne dépend de rien ni de personne en dehors de son esprit ou de son expérience, elle s'installera dans la source d'amour. Elle s'éveillera et ne croira plus au cauchemar de la maltraitance. Se réveiller de la maltraitance signifie rejeter la croyance erronée que vous n'êtes pas digne d'être aimé tel que vous êtes. Cela signifie apprendre à apporter de l'amour aux parties de vous qui se sentent mal aimées ou indignes. Au cours de ce processus, vous attirez dans votre vie des personnes qui peuvent vous aimer sans condition. Voilà, je trouve que cette chose qui dit d'abord je commence par moi. Ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'importance. Quelqu'un qui m'agresse, c'est quelqu'un qui me dit aime-moi. Mais il le dit sous des formes s'altrui. Hein. Ne faites pas autrui ce que vous voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Alors, dans la pièce de théâtre, on peut voir quelqu'un qui souffre, et parce qu'il souffre, il se croit coupé de l'amour, et il appelle à l'aide avec une forme particulière, en disant des injures. Mais personne qui dit une injure ne ressent l'amour à ce moment-là. Ça veut dire que cette personne est en train de souffrir. Si je me mets dans ses baskets, je ne peux pas t'aimer et te dire saltrui. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que je me sens mal, je me sens pas aimé, je me sens souffrant pour dire des choses pareilles. Et quand j'entends ça, soit j'entends l'injure, soit j'entends l'appel à l'amour en fonction de ma propre blessure. Et donc, ce frère qui m'a injuré, il me dit, et au fait, comment elle va ta blessure? Comment va l'enfant intérieur maintenant là? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il va s'offenser? Ou est-ce qu'il va voir ma souffrance? Il va me dire, viens, je te pardonne parce que cela ne s'est pas produit. Donc ce frère est un baromètre de ma blessure et du rapport d'amour, de dignité d'amour que j'entretiens avec moi-même. Donc au lieu de m'occuper de lui, c'est ce que me dit ce texte, hein, ce que je crois aussi profondément, au lieu de m'occuper de lui, je m'occupe de la partie de moi qui ne se croit pas digne d'amour et qui peut être blessée. Qui pense qu'elle peut être blessée. C'est ça le cauchemar de la maltraitance dont parle Jésus. C'est Jésus hein, qui parle, c'est une canalisation ce texte. Donc sortir du cauchemar de la maltraitance, c'est arrêter d'écouter les injures et se demander pourquoi je me sens si mal quand on m'injurie. Et pourquoi je ne me sens pas digne d'amour et que le moindre frère qui me dit un mot de travers, je me sens offensé. Et lorsque je peux m'accorder de l'amour à toutes les parties intérieures qui ne se sentent pas dignes d'amour, alors, parce que ma vie à l'extérieur est le miroir de ce que je me donne à l'intérieur, je vais commencer à attirer des gens qui vont m'aimer sans condition, qui vont refléter que je m'aime moi-même sans condition. Donc le jour où j'arrête de me juger est archi important. Parce que ça conditionne que dans ma réalité de tous les jours, je vais voir la même chose. Et toutes les façons distordues que j'ai de me voir moi-même, petit ou petite, ou vulnérable, ou souffrant, conditionne que, parce que je pense ça, alors il y aura une multitude de preuves que je suis ça. Et c'est ça l'unité. C'est, aimer, c'est pas une pensée. Aimer, c'est un état d'esprit. je te vois, soit j'entends ton appel à l'amour, soit je me sens offensé. C'est un état d'esprit. C'est comment je vois la situation. Alors, il me dit, sale truie, et moi, à l'intérieur, je peux répondre, moi aussi je t'aime. Parce que, en vérité, c'est, est-ce que tu m'aimes, sale truie? Mais il y a besoin d'un dictionnaire. D'un dictionnaire pour transformer la souffrance en appel à l'amour. Bien sûr, ça demande d'avoir réparé des choses à l'intérieur. Parce que si je plonge dans l'offense, si je plonge dans la blessure, c'est impossible d'entendre « aime-moi ». C'est, y a que l'injure qui est là. Il y a que « je suis vulnérable ». Il y a que « on peut me faire du mal ». Mais qu'est-ce que c'est « on peut me faire du mal » ? C'est une croyance. On peut me faire du mal. C'est-à-dire « c'est possible ». Mais si je dis « c'est impossible », si je crois « c'est impossible », alors ça devient impossible. Et comment je fais que ça soit impossible ? Eh bien, je vois toutes les parties de moi qui se pensent vulnérables et je commence, de moi, à les guérir, à leur donner de la dignité, à leur donner, à pardonner, à me pardonner. Donc, je dédouane tout le monde. Personne n'est coupable, personne n'est responsable. Au contraire, ce sont des facteurs d'aide dans ma vie qui me disent « Tu vois, t'es encore vulnérable ?» Eh bien, vas-y, au boulot, au boulot. Tout ce que tu t'es toujours refusé, voilà, est-ce que maintenant tu vas être capable, tu vas croire que c'est possible de te le donner. Alors, ça passe par je mérite le meilleur, même si je n'y crois pas, je suis digne d'amour, même si je n'y crois pas. L'importance du oui, c'est ça. Dès que je dis « je suis », je formule une intention puissante. Hein. Et ça dépasse bien des croyances, les intentions. Les intentions sont divines. Hein. Le désir est divin. Donc, « je suis digne d'amour », plus je le répète, et plus je peux effacer les anciennes croyances. « je mérite le meilleur ». Ça veut dire que je ne veux plus des comportements inconscients hein, qui reflètent l'apparente séparation à l'amour universel. Voilà. Alors, à propos de l'amour inconditionnel, beaucoup pensent que c'est hors de notre portée, à l'état d'humain. En vérité, nous vivons un monde limité, hein, parce que nous croyons que nous avons un corps et que donc ça manifeste la limite. Nous croyons au temps qui est limité, nous croyons à l'espace et au monde qui un jour cessera. Donc tout, nous naviguons en permanence dans un monde de limites. Donc ok, comment trouver l'amour illimité dans un monde limité? Peut-être en commençant à fonder ma conscience sur l'espace du cœur. Comme disait Yeshua, hein, en quatre étapes, hein, passer d'une conscience fondée sur l'ego, progressivement, en repérant ce que je fais et dans quelle situation je le fais, à une conscience basée sur le cœur. Donc c'est un texte qui pour moi était formidable, majeur, dans les messages de Pamela Crib, hein, passer d'une conscience fondée sur l'ego à une conscience fondée sur le cœur. Donc, Yeshua décrit quatre étapes précisément hein, pour commencer à raisonner à partir du cœur plutôt que sortir exprimer ce qui est dans ma vie tous les jours en me basant sur la conscience de l'ego. Donc, pour nous, humains, ça prend une forme progressive. Hein. En vérité, il n'y a pas de progressivité. Quand nous sommes dans l'unité, on est 100% amour et rien d'autre. Mais dans la pièce de théâtre, il y a une apparente progressivité. Et la progressivité s'appuie sur « je m'aime moi-même ». De plus en plus chaque jour hein, et ainsi je façonne le monde qui est autour de moi. Voilà, ce texte, je l'ai envoyé sur le groupe de conscience, hein, une à environ 900 personnes qui se sentent concernées par l'évolution de la conscience. Je vais aussi le mettre sur Être Plus. Il ne me paraît pas arrivé maintenant par hasard. Hein, c'est ça que je peux dire par l'intensité de la résonance que je ressens à son sujet. Je ne l'ai pas lu entièrement, hein, mais le passage sur l'amour inconditionnel, en tant qu'humain, hein, comment cheminer vers, comment être de plus en plus inconditionnel, jusqu'à ce que ma conscience navigue, hein, à 100% vers l'espace du cœur. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de monde, il n'y a plus besoin de limites, parce que j'ai moi-même abandonné ma vision limitée. Tout est vision. Hein. Qu'est-ce que je choisis ?
Oui, merci Avi. Je voulais juste ajouter un témoignage parce que donc il y a 3-4 ans, Paul Ferrini donc a également écrit un ouvrage qui s'appelle L'amour inconditionnel. Donc là, tout l'ouvrage c'est l'amour inconditionnel. Et j'en profite pour lui rendre hommage parce que je dois dire que ce livre a été pour moi un support enfin ça m'a sauvé la vie. Voilà, c'est-à-dire que j'étais à un point où je le mettais carrément dans le lit et en pleine nuit j'ouvrais les pages et j'étais dans un tel état que c'était vital pour moi de lire et de méditer sur ces écrits qui sont pas simplement des écrits, évidemment c'est de l'encre imprimée dans un livre, mais en fait, comme il le dit dans la préface, il y a une énergie dans ce livre parce que effectivement le Christ ou en tout cas le divin s'adresse à nous comme si on était à son égal. Et c'est sous forme de dialogue et non pas de récit où on est de fait exclu, quoi. On est complètement inclus dans ce qui est transmis, quoi. Et vraiment, vraiment, j'ai énormément de gratitude. J'ai pas rencontré cet homme, mais j'aimerais un jour pouvoir lui dire parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Voilà. Donc si certains auditeurs traversent des phases très sombres. Je leur conseille. Alors bon, chacun est unique, mais en tout cas moi je peux témoigner que pour moi ça a été extrêmement salvateur.
J'aimerais ajouter, ayant lu des extraits du livre de Paul Ferrini, j'aimerais ajouter une expression qu'il a, moi, qui me parle énormément concernant les relations. Il parle de marchandage névrotique. Avi, dans ce que tu as lu, il a dit marchandage, mais à un autre moment du livre, il dit marchandage névrotique. Moi, ça me parle, ça éclaire, ça formule quelque chose que j'ai toujours ressenti et je me sens allégée de le lire comme ça, dit comme ça. Et il dit que il ne peut y avoir d'amour quand il y a marchandage névrotique, parce que c'est construire une relation sur des sables mouvants et que ça ne marchera jamais, jamais. Et voilà, je trouve que, enfin, c'est, en plus c'est mon expérience, donc ça me parle vraiment, ouais.
Cette notion de marchandage, en fait, elle est totalement générale sur cette planète. Et d'ailleurs, la base de nos échanges, c'est l'argent. Et on parle d'aller étudier les processus économiques. Et ça consiste à donner pour recevoir. Et on parle de... Justement, il y a des marchands qui vont vendre des produits contre de l'argent. Et donc c'est un système de marchandage. Ça fait partie de notre expérience et c'est basé sur la séparation. C'est neutre. Ça fait partie d'une expérience qu'on a choisi de vivre. Et quand on parle des relations qui sont des marchandages névrotiques, par exemple, comme tu viens de le faire, effectivement, mais c'est comme ça pour tout. C'est comme ça et c'est une question de vision. C'est pas une question en soi, c'est pas, par exemple, le mariage, on dira, il faut pas se marier, c'est pas ça. C'est comment je vais voir le mariage. Comment, quand je vais m'acheter une paire de chaussures, je vois ce que je suis en train de faire. Quand je tombe, je suis attiré par une personne, et puis je commence à y vivre avec, et tout d'un coup, il y a l'idée de mariage. Comment est-ce que je vois la question? Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on va arriver à cette notion de guidance. On le fait parce qu'on le sent. Mais on le fait libre. Il n'y a pas de marchandage. On va dire, on le fait parce que je le fais. C'est comme si vous êtes dans une forêt, il y a un embranchement, on prend à droite ou à gauche. Vous dites, je prends à droite. On pouvait prendre à gauche. C'était pareil. Non, mais je prends à droite parce que je le sens, c'est tout. J'explique pas. Je me marie parce que je le sens. Je divorce parce que je le sens. Voilà. Et c'est tout comme ça. Et ça, c'est l'amour. Et donc, on ne donne plus de valeur aux choses. On ne donne pas une valeur dans une relation parce qu'elle va durer un certain nombre d'années. On va dire, c'est dommage, on va essayer de sauver notre couple, ça ne va rien dire, il n'y a pas de couple à sauver. C'est névrotique, effectivement. C'est complètement névrotique. Hein. Il n'y a aucun couple à sauver parce qu'on est tout. Et donc, on a des relations amoureuses, mais au sens fort du mot, c'est un amour inconditionnel. On est tout. Et donc, ça devient, souvent on emploie le mot danse, par exemple. Bon, c'est une danse, c'est une façon de parler. À ce moment-là, la vie devient une danse permanente. Oui, ok, c'est vrai, apparemment, effectivement, on est deux là, on vit sous le même toit, et puis voilà. Mais on est libre, il n'y a pas de futur. Et puis, il y a un amour profond de nos 7 milliards de frères et sœurs. Il n'y a pas de privilégié dans l'histoire. L'amour n'a pas de chouchou, n'a aucun sens. Il n'y a pas de préféré. Il y a des préférences dans le monde de la... Dans le monde, disons, dans le monde humain, je préfère la salade au riz, par exemple, je sais pas, ou à n'importe quoi, je préfère. C'est simplement une préférence, c'est une observation. C'est comme vous dites, par exemple, j'ai facilement froid, ou au contraire, j'ai ceci, cela. Mais c'est une observation d'un personnage. Ça fait partie du jeu de la pièce. Mais on peut dire que ce ne sont que des observations, ce n'est pas des jugements. Souvent d'ailleurs on entend dire, si je dis je préfère manger des huîtres plutôt qu'autre chose, c'est un jugement, non, c'est une expression de quelque chose que je sens, c'est tout. Ou si je dis cette personne-là, c'est drôle, je me sens pas bien avec elle. C'est pas un jugement, c'est je me sens pas bien avec la personne. Mais j'ai pas dit qu'elle était responsable, qu'elle avait tort, qu'elle devrait changer. Au contraire, telle autre personne, je ne sais pas pourquoi, quand je la vois, je me sens bien, ça me réjouit le cœur, c'est tout. Donc j'observe. Mais j'ai pas, je ne dis pas que c'est mieux qu'une autre personne. C'est comme ça dans mon expérience. Ce que je suis en train de dire là, ça peut vraiment aider. Et ça peut faire tomber un tas de fausses culpabilités qui n'ont pas lieu d'être. Donc, les relations que nous avons, comme dit le courant miracle, ton frère est ton sauveur, il te permet de rechoisir l'amour inconditionnel. Ça ne nie pas tes émotions, ça ne nie pas tes préférences, tes ressentis. Et justement, ces émotions, ces préférences, ces ressentis, je suis appelé à les accueillir, à les embrasser. Et si je le fais pour moi, évidemment, je vais faire pour tous mes frères et sœurs. Sans aucune limite. Là, je commence à toucher à vraiment l'amour inconditionnel. C'est très simple, mais c'est vraiment fort. Et en même temps, c'est complètement simple. C'est complètement simple parce qu'une fois de plus, on vit que l'instant présent. Donc, c'est pas une somme de choses à faire. C'est un état d'esprit dans l'instant présent. C'est-à-dire, dans l'instant présent, est-ce que je choisis l'ouverture de cœur? Je respire. Je m'arrête un peu. J'accueille ce qui se passe. Mes émotions, celles des autres, je suis de plus en plus observateur, je questionne, tiens, comment ça se fait, tiens, mais j'attends pas de réponse. Je dis, tiens, c'est curieux, ah, tiens, je m'attendais pas à ça. L'autre a une réaction inattendue, ou un comportement inattendu. Très bien. Et j'observe, comme l'enfant qui regarde, l'enfant il regarde tout, il s'émerveille, tout est extraordinaire pour l'enfant. Il est fasciné, il écarquille les yeux, mais il n'a aucun jugement. Alors je comprends pourquoi Jésus nous disait il y a 2000 ans, redevenez comme des petits enfants. Et c'est d'ailleurs redit encore dans le courant miracle et c'est redit partout. Parce que ça a un sens, ça nous libère complètement. On touche vraiment là, quand on est sans jugement, quand on est simplement en observation, on touche, disons, à l'amour que nous sommes. C'est une façon de parler, bien sûr. On touche d'une manière beaucoup plus authentique à qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est qui nous sommes. Et donc, c'est ça que je veux. Je veux retrouver qui je suis, qui nous sommes tous, parce que nous sommes amour. Et nous sommes joie, nous sommes infiniment parfaits. Et donc, il y a eu effectivement un défi incroyable. C'est cette perfection s'amuse à jouer dans cette dualité, ce jeu de la séparation. Et on est en train justement de faire quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire de retrouver au milieu de ce monde très duel, de retrouver cet amour que nous sommes et cet amour que nous pouvons ressentir les uns pour les autres au milieu de ce monde apparemment de séparation. On a tout fait pour donner à la séparation une réalité. C'est impossible, mais l'illusion est très très bien faite. C'est incroyable comment c'est fait. C'est fascinant d'observer. Et évidemment, je viens de m'arrêter quelques secondes, parce que quelque part, on est toujours en arrêt. On est toujours en silence, on est toujours en écoute, comme l'enfant. L'enfant, il joue, il s'amuse, mais il observe. Il en écoute, c'est-à-dire qu'il est en accueil. Il est en amour, parce que l'amour accueille. L'ego analyse, l'esprit accueille, et l'esprit, c'est l'amour. Et quand on accueille, on ne juge pas. Quand je juge, je n'accueille pas. Je projette, je me ferme. Et je ne peux pas trouver qui je suis parce que ce n'est pas qui je suis. Qui je suis se révèle à moi quand je vis qui je suis. Et c'est pour ça que nous sommes tous sur le même travail qui consiste peu à peu à vivre d'une manière expérimentale, à expérimenter l'amour que nous sommes. Et c'est maintenant. C'est là, vous êtes en train d'écouter ce qui est dit ici, là. Moi, je suis en train de parler, mais je suis en train de le faire. Et c'est toujours comme ça, parce que c'est toujours l'instant présent. Donc, il y a apparemment un choix, et c'est toujours le même. Et puis, peu à peu, on choisit consciemment toujours la même chose pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de choix. Est-ce que Dieu a un choix? Il n'y a pas de sens. Or, Dieu est tout ce qui est, il n'y a que Dieu. Mais la notion de choix est utilisée. Vous voyez le paradoxe. C'est comme le pardon. Il n'y a pas de pardon. Dieu est tout ce qui est. Est-ce que Dieu a quelque chose à pardonner? Non, le pardon, c'est une illusion. Et pourtant, le pardon est utilisé. Donc, dans la même façon, notre monde, on peut dire qu'il est illusoire, très bien, mais il est utilisé. Ça change tout. Et c'est ça, donc, pour sortir, disons, pour se réveiller du rêve, on embrasse le rêve à plein. Et on fond dans le rêve plus que jamais. On l'embrasse complètement. Donc on l'accueille. Alors, évidemment, c'est des mots pour parler de ça. C'est toujours des mots. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui dit, ah oui, ça me donne une clé pour tous mes problèmes apparents, là, toutes ces difficultés. Même, je peux me sentir vide, triste, désespéré. D'accord, ok, on connaît tous ça. Mais finalement, j'ai toujours une clé avec moi. Et puis là, je suis en train d'entendre ces mots-là, mais cette clé-là, mais je veux la garder, moi. J'en veux, je décide, je veux cette clé-là. La clé, c'est qui je suis. La clé, c'est une autre vision, c'est retrouver la vision de qui nous sommes tous, qui je suis et qui sont mes frères et sœurs, qui sont qu'amour et lumière. C'est vraiment ça que je veux. Donc, peu à peu, j'arrive à ne plus choisir que cela. Et encore une fois, comme je dis souvent, c'est ce que j'avais vu dans un des livres de Lynda Walsh, qui dit un maître choisit toujours la même chose. Mais un maître, c'est vous et moi, hein, on est tous maîtres, puisque Dieu est tout ce qui est. Et on choisit la vérité. On choisit la vérité d'une manière de plus en plus permanente, quelles que soient nos émotions temporaires, entre guillemets. Donc je choisis. Et puis je m'aperçois qu'il y avait, au fond, il n'y avait pas de choix. Mais ça, c'est pour après. Mais temporairement, ok. Ce choix-là m'appelle. Ça m'appelle, ça nous appelle. Et on choisit de s'aimer, on choisit de vivre ensemble, on choisit d'avoir confiance ensemble. On sait très bien, on marche ensemble sur cette planète, les uns les autres. Quand l'un d'entre nous a un problème, soyons honnêtes, on n'a aucune solution pour le résoudre. Et donc, ça consiste avant tout à dire « je ne sais rien, mais je t'aime et j'ai confiance ». Que tu t'es choisi ton expérience, comme moi, que nous sommes guidés les uns les autres, toi et moi, et que tout va bien. Même si apparemment, ça semble pas aller très bien du tout. Ça, c'est d'accord. Mais profondément, ça va. Et c'est ça que je garde, disons, en vue. Ça, je m'accroche à ça. Ça, je ne le perds pas. Et au milieu des tempêtes, au milieu des chamboulements, je veux rester centré sur la vérité. C'est ce qu'on appelle la verticalité. C'est pour ça qu'on parle du symbole de la croix, où la verticalité, c'est un recentrage en verticalité permanent, et puis une expansion d'amour à l'horizontale, à l'infini, sur la planète, en particulier. Ça peut être aussi dans notre monde avec les extraterrestres, mais c'est déjà pas mal avec nos frères et sœurs ici, et cette milliard que nous sommes. Donc il y a une verticalité, et la croix, je reste centré sur qui nous sommes, et en même temps, je plonge dans mon expérience humaine, j'accueille mes frères et sœurs dans mon cœur, j'accueille toutes les situations, toutes les émotions, du moins j'en ai l'intention. Il n'y a rien à réussir. Parce qu'encore une fois, ça se fait dans l'instant présent. Ce n'est pas une somme d'instants. Il n'y a pas de somme d'instants, il y a l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est toujours un seul choix. Soit je me ferme, soit je m'ouvre. Quand je me ferme, je suis pas heureux. Ça marche pas. Ça va pas. Je me sens pas bien. Et peu à peu, et pourtant j'ai envie de me fermer parce que j'ai peur. Ok, je me ferme. Donc j'observe que je me ferme. J'accueille mes fermetures. J'accueille mes peurs. J'accueille mes insatisfactions. Et c'est par cet accueil, parce que quand j'accueille, qu'est-ce que je fais? Ben j'aime. C'est ce qu'on appelle aimer l'enfant intérieur. On voit ça chez beaucoup de thérapeutes. On parle de s'accueillir, accueillir l'incarnation, accueillir l'enfant intérieur, accueillir l'enfant blessé, etc. C'est accueillir ses émotions, c'est tout. Et ok, oui. Et le fait de l'accueillir, eh ben c'est, je suis en amour. Et si je m'accueille moi, ben j'accueille aussi mes frères et sœurs, évidemment. Ça n'a pas de sens. Je peux pas le faire, d'ailleurs. C'est, si j'accueille mes frères et sœurs, je m'accueille moi-même. Et si je m'accueille moi-même, j'accueille mes frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment ça. C'est simple. Et ça suppose aussi un arrêt. Et comme un arrêt sur image. On respire. Ok, on s'arrête un peu là. Et je laisse qui je suis, qui nous sommes, me parler au cœur.
Il me vient de vous parler d'une expérience que j'ai eue récemment où j'ai lu le livre de Gary Renard et l'univers disparaîtra et ça m'a comblée de joie et je me sentais dans une autre dimension, enfin peut-être en tout cas avec des capteurs en alerte. Puis j'ai retrouvé une copine et on est allé faire des courses et on était à Belleville et... Donc dans un quartier où il y a beaucoup de Chinois. D'abord on prenait un café, et puis j'entendais des cris, et puis ça continuait. Enfin, et puis en fait on s'est rendu compte que c'était un homme qui était Chinois et qui dégageait beaucoup de violence. Et en regardant de plus près, il agressait pas les personnes qui passaient sur le trottoir, mais il se tapait sur lui. Et très violemment, enfin en tout cas il faisait beaucoup de bruit, enfin il se tapait quand même vraiment dessus, sur la tête, sur le torse, et après il se mettait à genoux devant la personne qui était à côté de lui, et je comprenais pas ce qu'il disait, puis évidemment il parlait en chinois, mais enfin c'était quand même pas banal, j'avais jamais vu ça, c'est-à-dire qu'il se tapait dessus, alors évidemment les gens s'écartaient en pensant qu'il allait les taper, mais non en fait ce qu'il voulait, bon après j'ai su que c'était une façon de mendier. Et je dis à la copine qui m'accompagnait, écoute, si ça t'embête pas, j'aimerais bien qu'on fasse un détour parce que j'ai pas très envie de passer à côté de lui. Alors donc, on est passé du côté de la rue, lui il était sur le trottoir, donc on est passé de l'autre côté des voitures qui étaient garées. Et puis à un moment donné, on s'arrête devant une vitrine d'un magasin. Et puis voilà, on parlait, puis j'ai oublié cet homme. Et à un moment donné, je sens une présence et il était juste à côté de nous. Et en fait, il avait des très bonnes ondes. Et c'est pour ça qu'on l'a pas remarqué tout de suite. Il s'est approché très calmement comme un chat. Et j'ai un peu sursauté. Après, on est rentré dans le magasin. Voilà, j'ai oublié. Et puis, j'ai demandé au vendeur du magasin qui était aussi chinois, mais vous le connaissez. Alors ils ont dit oui, on a l'habitude de le voir. En fait, il mendie. Donc c'est pour ça qu'il s'agenouillait. Bon. Et quand on est sorti du magasin, il était là. Et en fait, il était souriant, très calme, et il parlait avec quelqu'un. C'était un autre homme. Et moi qui lisais dans Gary Renard, ça parlait de culpabilité. Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire de tomber sur cette scène de théâtre où cet homme se tape dessus, alors que nous, on fait ça. Bon, moi, je le prenais pour un dingo. Mais finalement, moi, ça m'arrive à moi-même d'être dans des situations où un peu, on pourrait dire que je me tape dessus. Donc là, de voir cette situation tellement tragicomique, parce qu'il faisait un peu peur quand même au premier abord, et de le voir après si calme, c'était vraiment comme un one-man show un peu. Et alors, le soir, cette copine m'appelle, elle rentrait chez elle, elle me dit, tu sais pas ce qui vient de m'arriver. J'allais prendre le métro, et j'ai vu un homme qui était devant une affiche, et qui tapait sur l'affiche. Donc c'est un peu comme si c'était la suite, c'était tellement absurde, il y avait une affiche. Et en plus sur l'affiche, c'est un Chinois. Et il y avait un homme qui tapait sur l'affiche. Voilà. Voilà. Et je remercie cet homme d'avoir été là, parce que souvent, pour le côté incongru et aussi comique, je le remercie d'avoir mis une image sur cette situation, souvent qui ne se voit pas, puisque on peut se victimiser. Et lui, c'est ce qu'il faisait, mais à ciel ouvert. Voilà. Et je voudrais rajouter aussi une chose qui m'est venue là en vous écoutant, c'est que récemment, j'étais à un atelier de constellation familiale. Et j'étais bluffée par le génie, enfin, à ce stade, c'est du génie, de la perspicacité des personnes qui représentaient, donc, qui étaient des représentants qui se mettaient en scène, qui jouaient l'histoire de celui qui avait une certaine problématique, enfin, qui cherchait des solutions. Et en fait, ces personnes-là n'étaient pas spécialement des médiums ou même des gens qui avaient déjà participé. Pour certains, c'était la première fois. Certains étaient un peu, ils avaient un peu le trac au départ, enfin ils connaissaient pas du tout. Et en fait, ça collait tellement, c'était, et ils ne savaient pas qui représentait, en plus c'est ça qui est le plus fort. Et je me suis dit, mais au fond, si on arrive à capter tout ça, à savoir tout ça, c'est-à-dire des choses, mais qui, c'est impossible de savoir, c'est d'une subtilité. Je me suis dit, au fond, quand on va dans une histoire ou dans quelque chose ou quelque part ou quand on fait une démarche, je pense qu'il y a une part de nous qui sait, parce que c'est pas possible autrement. Et moi, quand cette histoire de constellation, évidemment, c'est comme une scène de théâtre en plus. Et quand on voit ce qu'on capte, sans être un grand génie de la médiumnité, je me dis, bah oui, mais au fond, c'est pas parce qu'il y a un cercle avec des chaises que c'est ça qui nous rend si perspicaces. Je pense qu'on l'est tout le temps. Et je me dis finalement, c'est bien quand on vit quelque chose, c'est bien. Parce que je pense qu'on sait, maintenant j'en suis convaincue, qu'il y a une part de nous qui sait ce qui va se passer. Voilà. Alors, j'ai longtemps eu du mal avec ça, parce que quand c'est des expériences cruelles, je me dis, oui, mais c'est pas juste. Mais je pense qu'il y a une part de nous qui a l'intuition de la couleur de ce qui va se passer. Même si c'est un peu de la souffrance ou... Mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de ce vers quoi on va, voilà.
Oui, merci Virginie, effectivement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des quatre messages, et le quatrième, c'est l'activation du troisième brin d'ADN. Et là, il est dit spécifiquement qu'on commence à vivre différemment notre expérience, et c'est comme si on sait les choses. Alors, bien sûr, on peut toujours dire que tout le monde sait tout, puisqu'il n'y a que Dieu, on est tout. Donc on sait tout et tout est en nous. Mais disons que ça devient plus conscient. Et c'est vrai que c'est des phénomènes qui se vivent de plus en plus. D'ailleurs, ils sont toujours uniques. L'expérience de l'un, c'est pas l'expérience de l'autre. Et puis même si on regarde sa propre expérience, c'est jamais dupliqué, c'est toujours nouveau, c'est toujours différent. Donc on partage des expériences les uns les autres, mais c'est pas pour les reproduire, c'est pas qu'on n'a pas recopié quelqu'un. Mais c'est vrai que on vit de plus en plus, et ça, le phénomène s'accélère, des phénomènes nouveaux dans lesquels on sait les choses, on a une intuition, on les voit, on les sent, on sait ce qui se passe, et chacun, on ne peut pas les saisir, mais chacun va le fait différemment. Et là, on est invité même à ne pas hésiter, à oser faire confiance. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a répondu à une interview téléphonique pour faire du babysitting, et la personne que j'ai vue faire ça, c'était stupéfiant, parce qu'elle était complètement guidée. Et en fait, c'est elle. Quand on dit qu'on est guidé, c'est notre intuition, mais l'intuition, c'est nous. Et même quand on canalise des messages, mais ça vient d'où? C'est nous. Et donc, on commence à ne plus mettre de limites et voir que on a tout en nous. Et qu'évidemment, de plus en plus, on vit des expériences comme ça, on dit, mais c'est incroyable. J'avais une réponse à tout, j'ai fait ça, mais ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Et c'est quelque chose, justement, qui vient par l'importance du oui. Quand on dit oui vraiment au plan, quand on dit oui à qui nous sommes vraiment, quand on dit oui que c'est au fait que c'est l'esprit qui gère tout l'ensemble de la pièce, mais l'esprit c'est nous, à ce moment-là, on observe de plus en plus de phénomènes très concrets, physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, d'une manière très très concrète. Et c'est ce qui est en train de changer. On devient vraiment acteur-créateur. Mais c'est pas une création forcée. On va avec la création. C'est comme si on observe la création qui passe à travers nous. Et c'est ce que disait Jésus très clairement il y a 2000 ans, avec ces deux phrases. Le Père et moi sommes un, mais de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi qui agit. Vous voyez le paradoxe? Alors c'était son langage. Mais oublions le langage religieux, c'est très concret. C'est j'observe qu'il y a quelque chose qui passe à travers moi et c'est moi. Et là c'est au-delà des mots.
Ouais, moi, je suis contente d'être ici parce qu'en fait, ça me rebranche. J'avais débranché. Et, voilà. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ce que tu disais tout à l'heure sur l'amour de soi. C'est, je me dis, il y a un endroit de moi qui m'aime tellement pas que cet endroit-là de moi, cette partie-là de moi, refuse la partie où je suis branchée, alors de toute façon, je le suis. Et j'ai la chance même d'y être. Et voilà, je pense que c'est vraiment tout mon dilemme en ce moment, c'est qu'il y a une partie de moi qui me est, enfin qui arrive pas tellement pas à s'aimer que elle débranche quoi, elle coupe le fil et puis donc après je sais plus rien alors qu'au fond je sais. Enfin, voilà. Donc ça m'a beaucoup parlé cette histoire d'amour de soi. Tout à l'heure je disais à un ami au téléphone que j'étais en train de faire un. C'est une forme enfin, au niveau professionnel et financier, c'est comme si je conduisais une voiture et que je fonçais dans un mur, que je savais que je conduisais la voiture et que je sais que je fonce dans le mur, et je continue à foncer dans le mur en sachant très bien que je pourrais freiner, que je pourrais, voilà, mais je le fais pas. Et bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a là, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où c'est une forme de suicide parce que si je m'aime, il va falloir à un moment donné peut-être que j'appuie sur le frein, que j'arrête de, enfin voilà, que je fasse quelque chose quoi, parce que sinon je vais finir par me retrouver SDF. Et puis il y a un autre niveau où je me dis, bah après tout, si je suis SDF, pourquoi pas, parce que si c'est le chemin que je dois, non mais j'en suis là sérieusement hein. je c'est peut-être très drôle aussi. D'accord. Non mais en fait c'est marrant parce qu'ici tout est drôle hein, d'être une truie, d'être SDF, tout va bien. C'est bon, donc c'est assez génial. Ça fait un effet assez top. Bon, mais alors c'est vrai que bon, c'est ça me donne chaud. Mais ouais, enfin il y a un autre niveau, je me dis bon bah si c'est le chemin d'être SDF, c'est le chemin d'être SDF. Pourquoi pas? c'est assez. Je trouve qu'on vit une époque spéciale. Et c'est vrai que c'est ça aussi. Tout à l'heure, je me disais, voilà, quand tu parlais du chemin, donc j'aurais pu tourner à droite, donc je décide de tourner à droite. Et moi, des fois, je sens ça, je me dis, ça y est. Et là, je sens que c'est mon âme qui me dit, là, tu tournes à droite, tu vas à droite. Et alors là, c'est radical et je peux avoir une espèce de jubilation intérieure, Enfin, c'est l'extase, quoi. Je l'ai eu récemment, c'est génial. Mais alors après, il se passe des choses, forcément, puisque je suis tournée à droite, et donc dans le chemin, il se passe des trucs. Et là, bah alors là, il se passe des choses qui sont plus du tout jubilatoires et qui deviennent même dépressifs. Et il y a des gens qui rentrent, forcément, il y a d'autres êtres humains qui sont là, qui rentrent en interaction. Et du coup, moi là, je suis paumée et je sais même plus. Parce qu'il va falloir à un moment donné que je redécide de retourner à gauche ou à droite ou de reprendre des décisions, de refaire des choix. Et là, je suis paumée, de nouveau, je suis. Et enfin, je sais plus, hein, vous deux parlez de confiance. Enfin, il y a l'amour à la confiance, quoi. Faut. Ça demande de faire confiance. Et c'est pas facile, quoi. Vraiment, ça demande de s'aimer, ça demande de faire confiance. Et. Je trouve que c'est un sacré boulot, quoi. Enfin, c'est un boulot à plein temps. Du coup, j'ai pas le temps de faire d'autres choses. En l'occurrence, faire en sorte de gagner un peu plus d'argent, parce que ça me prend un temps tellement énorme, tout ça, que j'ai pas d'autre temps. J'ai pas le temps de faire autre chose. J'ai pas le temps de faire autre chose, quoi. Je peux pas. Si la vie me demandait, voilà, maintenant tu t'occupes de toi et t'as que ça à faire. Alors je fais que ça, donc forcément, même si je dois être SDF, bah, je serai SDF, mais enfin c'est bizarre, un peu. Je sais pas, c'est un peu paradoxal ce que je peux dire, mais ça l'est pas, mais enfin voilà. Merci.
Merci beaucoup de ce que tu viens d'exprimer, parce que le phénomène s'accélère, c'est-à-dire qu'en fait, on ne maîtrise pas la pièce de théâtre. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à maîtriser les choses, et on est en train de voir qu'on maîtrise rien du tout. Et en plus de ça, le processus s'accélère, les leçons, les circonstances deviennent de plus en plus rapides. Et on a l'impression qu'on va mourir, qu'on ne maîtrise plus rien et qu'on tombe. Et ce qui est exact. Le cours en miracle, par exemple, va dire, qu'est-ce que ça vous coûte, ça, de vraiment vouloir la non-dualité? Eh bien, la réponse, ça vous coûte tout. Tout ce que vous croyez, toutes les sécurités auxquelles vous donniez votre confiance. Mais vous allez apercevoir que c'était une illusion. Et que c'était toute une illusion. Et que la sécurité, c'est vous. C'est une autre vision. Et la paix que vous cherchez, elle vient par une autre vision. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a en ce moment, les uns les autres, de plus en plus d'expériences, un peu comme tu viens de décrire, où, ok, je sens, j'ai une jubilation, je prends un droit, je sens que c'est juste, et puis pas le lendemain, ou peu après, je commence à paniquer en me disant, mais non, puis j'ai apparemment des choses difficiles qui arrivent. Et donc, j'ai peur. C'est parce qu'en fait, c'est exprès, c'est l'esprit qui me donne ça pour enfin me libérer. Mais sur le moment, j'ai pas l'impression d'être libéré, j'ai l'impression que je vais mourir. Hein? C'est pour ça qu'effectivement, tu viens de dire qu'on parle de confiance. Et tu dis, mais il faut avoir confiance. Effectivement, la confiance, c'est total. Encore une fois, le courant miracle dit que, dans le manuel pour les enseignants, que la première des caractéristiques des enseignants de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui décident de vivre l'amour, on peut dire, c'est simple, hein? C'est maintenant. Eh bien, la première des caractéristiques, c'est la confiance. Et c'est pas rien. Et on s'aide les uns les autres. Et en fait, quand on a confiance pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas confiance qu'on va trouver une solution pour soi-même. Par exemple, tu parlais d'être SDF. C'est pas que je vais trouver une maison, c'est pas que je vais trouver de l'argent, c'est que je vais être en paix. Donc effectivement, si je suis en paix, je suis en paix. Que je sois SDF ou pas, je suis en paix. On voit des clochards éveillés. Il y a des clochards qui sont dans une paix incroyable. Peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des gens en prison, c'est rare aussi qu'ils ont une paix et un bonheur, mais incroyable. Hein? Ça ne dépend pas des circonstances. Voilà ce que l'on est en train d'apprendre. Alors c'est vrai qu'on a des expériences les uns les autres très fortes. Et ceux qui écoutent ces paroles, certains, je suis sûr, c'est évident, vivent des expériences très difficiles. Eh bien, ensemble, quelque part, c'est comme si on se donne la main. Là, maintenant, on se donne la main, on fait silence, on respire ensemble. Et je dirais tout simplement, comme des petits enfants, on a confiance ensemble. Voilà. Et on se sert de ce groupe, on se sert de cette ouverture de cœur, de ce cercle que nous formons ensemble. Comme dit souvent Avi, c'est bien plus que les quelques personnes qui sont rassemblées autour de cette table ici. C'est tous ceux qui écoutent et aussi dans leur monde. Et on se donne la main, comme des petits enfants, en confiance. On respire, là, on respire physiquement, tranquillement. Et on lâche prise. On accueille nos pensées, nos émotions, nos peurs, nos joies, nos sourires. Vous avez pu remarquer qu'ici, on a exprimé des choses fortes et en même temps, on a beaucoup ri ce soir. On accueille tout ça, ensemble. On ne ferme pas la porte à l'amour. On le laisse nous diriger. Puis dans ces situations qui semblent chaotiques, après des situations euphoriques, eh bien, nous savons que ça fait partie d'un jeu. Et le but du jeu, c'est notre éveil. Le but du jeu, c'est la joie, c'est le bonheur. Que nous sommes déjà. Nous sommes en train de retrouver qui nous sommes. Et ça, qui nous sommes, eh bien, c'est éternel. C'est inviolable, inaltérable, intouchable. Ça, c'est la vérité de qui nous sommes. Alors nous remercions, comme ça, gratuitement, comme des enfants, tranquillement.
Alors moi, je suis guidé à parler de réalité et à parler de l'illusion. Qu'est-ce qui fait que, étant en Dieu, nous percevons toutes ces choses séparées? Qu'est-ce qui fait que nous voyons, nous inventions des limites. Hein, comment c'est possible que, étant dans l'unité, nous voyons ce monde physique tel qu'il est? Et le pire, c'est qu'on le voit tous de la même manière. C'est-à-dire que si tu vois ce livre, je le vois aussi. Et il est bleu. Alors, il y a une phrase qui parle de ça. Je vais d'abord la citer. Elle vient d'un cours en miracle. Et ensuite, je rajouterai quelque chose qui est relié. Alors, ça dit, nous avons besoin d'aide pour nous éveiller du rêve, parce que nos sens physiques n'acceptent que l'information qui renforce notre croyance en la réalité du rêve. C'est fort, pour moi c'est très fort cette phrase. Nous avons besoin d'aide pour nous éveiller du rêve, parce que nos sens physiques n'acceptent que l'information qui renforce notre croyance en la réalité du rêve. Donc, tout se passe comme si nous étions dans une boîte avec 5 petits orifices qui sont nos sens physiques. Et ces petits orifices sont très spécialisés. Il y en a qui sont la vision, il y en a qui sont l'odorat, il y en a qui sont l'ouïe. Et ces 5 petits orifices sont notre interface avec ce que nous croyons être réel. Mais comment ça se passe? Notre par l'intermédiaire des sens physiques, notre cerveau convertit la perception de ces sens en signaux électriques, en signaux électromagnétiques dans le cerveau. Et après, d'une manière complètement inexpliquée, il y a une sorte de programme informatique qui traduit ça en image, en son, en odeur. Et là, la phrase qui tue, c'est peut-être pas c'est peut-être pas anodin, ce verbe, c'est: et s'il y avait un bug dans ce programme informatique? Et ce bug, c'est moi qui ai écrit le programme. C'est moi qui ai écrit la traduction. Parce que si je vois un livre bleu, il n'y a aucune raison qu'il m'apparaisse de cette couleur-là. Si je voyais les choses telles qu'elles étaient, c'est une vibration d'une certaine fréquence. Et le rouge est une vibration d'une autre fréquence. Et je décide que ça apparaît comme la couleur rouge, je décide que ça apparaît comme la couleur bleue, je décide que c'est salé, je décide que c'est sucré, je décide que c'est dur, que c'est mou. Je décide de tout, en fonction de quoi? De ce à quoi je veux bien croire. Donc, c'est un peu effrayant, hein, ça rappelle que savons-nous de la réalité, et en même temps, pour moi, c'est plein d'espoir, parce que tout est dans le programme informatique, qui s'appelle l'ego, hein, et qui dit, tu veux un rêve? Attends, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut comme programme. Comme dans Matrix, on prend un CD, gling. Tu veux une autre bobine? Oh, j'en ai plein, choisis. Tu veux un rêve heureux? Tiens, gling. Tu veux l'angoisse? Tiens, j'ai le CD de l'angoisse là, gling. Et je télécharge. Voilà. On n'a pas un truc dans le crâne derrière, mais tout le cerveau, c'est une prise. C'est une prise et qui est gouvernée par qu'est-ce que je veux bien croire? À quelle réalité je veux croire? Donc c'est effrayant, c'est porteur d'espoir, parce que je peux réécrire le programme. Je peux voir différemment, simplement, en arrêtant de croire que certaines choses sont possibles. Ou en fait, ça réside dans mon esprit. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Ça réside dans mon esprit, il n'y a rien à l'extérieur. Certaines personnes éveillées ou qui s'éveillent en une fraction de seconde racontent que d'un seul coup, elles voient la danse des molécules et des atomes. Elles voient ça. Et ça, c'est vraiment la matière, c'est vraiment la réalité. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la danse? Pourquoi est-ce qu'on voit les choses finies comme ça? Pourquoi est-ce que mon doigt il s'arrête et passe pas à travers le livre, hein? Il y a des tas de choses comme ça. Donc oui, on a besoin d'aide parce que ce programme il est construit avec une infinie puissance et il est d'une infinie complexité pour que j'arrive à croire que c'est réel tout ça. Donc j'ai besoin de changer la manière dont je vois de tous les sens, dans tous les sens du terme. Mais pourquoi ça m'aide cette partie-là? Et il y a une vidéo sur la Kabbale qui parle très très bien de ça, qui est très belle à entendre. Parce que c'est une grosse boîte noire, non, une petite boîte noire avec 5 petits trous, et autour, il y a la réalité. Et c'est comme si c'était infime. La manière que j'ai de décoder ce qui est autour de la boîte noire, elle est, si on considère un tout petit peu la logique, complètement absurde. Complètement absurde. Parce qu'on n'a aucune idée de comment un influx nerveux qui passe par mon nerf optique se traduit en image. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas dans le physique. Ça ne se passe pas dans le physique. Ça se passe dans l'esprit. Ça se passe dans la projection, ce que j'ai envie de voir. Et je fabrique les images. Parce que ils ont beau suivre les influx nerveux, ils ont beau aller fouiller avec des scanners, personne ne peut dire comment l'image est perçue. Comment personne ne peut dire comment l'odeur du citron m'apparaît comme l'odeur du citron. Parce que je le fabrique de toutes pièces. Hein, et c'est pas physique. C'est pas physique. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut cesser d'être interprété comme ça. À tout moment. À tout moment, je peux voir les choses différemment. Pas seulement en termes de physique, hein, aussi en termes d'interprétation de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Parce que tout ça, c'est du code, c'est du binaire. Hein. J'ai fait un programme informatique et je dis, ben, je veux la bobine de la planète Terre. Hein. Je veux la bobine, mais j'ai programmé. Hein. J'ai programmé. Pour ceux qui ne croient qu'au physique, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'y a plus rien pour sauver. Il n'y a plus rien pour sauver. Si ça s'écroule, c'est le néant. Donc c'est une très mauvaise nouvelle et je comprends les gens qui réagiraient très mal à ce que je dis en ce moment. Je les comprends. C'est pour ça que sans une intuition profonde qu'il y a bien une autre voie que celle que nous vivons, il y a bien une autre réalité que celle que nous croyons vivre, ce que je dis c'est violent. Hein. J'entends, et moi-même, il y a 20 ans, je me serais traité de fou hein, en disant des choses comme ça. Mais voilà, c'est de plus en plus évident que tout ça, c'est complètement inventé. Hein, c'est complètement inventé. Et puis aussi, on décide de faire le même rêve. Hein, c'est pour ça qu'on voit le rouge ensemble, qu'on voit le bleu ensemble. On décide de faire le même rêve parce qu'on est relié. Parce qu'il n'y a pas plusieurs égos, il y en a un. Il y a un égo et il nous est commun. Hein. Et l'égo, c'est l'idée de séparation. C'est pour ça qu'il en faut un pour sauver le monde. Parce qu'il y a un égo. Et parce que ce renversement de la pensée, quand j'arrive à l'opérer, quand je demande l'aide suffisante, nécessaire pour l'opérer, alors il s'opère pour tous les frères et sœurs. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Oui, c'est justement pour ça qu'on dit que la pièce est parfaitement jouée avec l'accord total des 7 milliards que nous sommes. Il ne peut pas en être autrement. À cause de la source que nous sommes. Donc c'est incroyable de voir cette pièce de théâtre qui est gigantesque, d'une complexité infinie, mais qui est jouée ensemble, Et il y a, disons, 7 milliards de volontés, c'est une façon de parler parce que c'est multidimensionnel, mais ça fait rien. Là, j'en parle dans le monde à trois dimensions, hein, avec ces mots-là. Et donc, c'est forcément, obligatoirement, un accord commun. Donc, nous sommes tous d'accord pour cette pièce de théâtre. Tous, sans aucune exception, on ne peut pas venir ici si on n'est pas d'accord. On vient exprès, on vient jouer cette expérience. Et donc, pour la jouer, ben, on la joue. C'est comme si vous montez sur une pièce de théâtre pour jouer une pièce. Vous n'êtes pas ailleurs, je sais pas où, en train de regarder un aquarium. Vous êtes sur la pièce et puis on joue la pièce, c'est tout. On peut pas. Donc, et ça, c'est, ça vient de l'amour. Et on a tous décidé de jouer ce jeu dans un amour incroyable. Y compris des relations qui nous sont très difficiles et des relations d'amour-haine avec des choses qui apparemment sont très violentes. Mais à la source, ça n'est qu'un amour incroyable. Et c'est pour ça que c'est comme si on avait un peu épuisé tout, on a dit bon ben voilà, on a bien joué, on a vu que finalement on est en train de se réveiller à l'amour à qui nous sommes au milieu de ce monde extrêmement chaotique en apparence, parce qu'on a fait exprès, et on dit mais ça marche pas. Non, il n'y a que l'amour, et c'est quelle démonstration de la merveille que nous sommes. Au milieu de ce noir, de ces obscurités, on se réveille à la dans la lumière. Et c'est ça le, la beauté de cette expérience terrestre. C'est ce que nous disent d'ailleurs beaucoup de guides et des observateurs qui sont dans d'autres mondes, disons multidimensionnels, on va dire plus proches de la lumière, pour employer ces mots-là. Et ça a vraiment un sens. Ça a vraiment un sens et c'est très joyeux. Et c'est très joyeux parce que le fait de pouvoir en parler maintenant, c'est, ça fait partie du processus qui s'accélère et on choisit vraiment maintenant. On retrouve notre puissance, ce qui fait que ces situations difficiles où on se sent paumé, etc., comme on l'a décrit ce soir, on a été plusieurs à en partager, eh bien, ça ne dure pas. C'est extrêmement rapide, on a des témoignages de plus en plus, en disant, c'est drôle. Oui, d'accord, je me sens triste, j'ai même une angoisse, mais c'est comme si j'observais mon angoisse. Je dis, tiens, oui, je suis en colère, tiens, j'ai une angoisse, tiens. Et ça ne dure pas. Alors qu'avant, ça durait, oui. Et c'est ça qui change beaucoup. Et le fait de le partager, le fait, vous qui écoutez ces mots, le fait que vous soyez là, vous prenez du temps, parce que, en fait, c'est votre cœur qui vous appelle à ça. C'est vous-même qui décidez. C'est vous-même qui choisissez de vous éveiller à l'amour et à retrouver qui vous êtes. Ça dépend pas, ça vient pas des autres, ça vient de votre cœur et de votre appel intérieur. On est en train de se réveiller en répondant à l'appel à l'éveil qui se trouve déjà en nous. Et on s'éveille exactement dans un temps illusoire, exactement selon un programme qui est parfaitement programmé pour nous, dans un amour inconditionnel total. Donc il n'y a pas de préféré et il n'y a pas de vénard, il n'y a pas de chanceux dans l'histoire. Quand on entend dire j'ai eu la malchance de ou un tel a la chance de, c'est faux. Quand on dit par exemple, mettons Eckhart Tolle ou un autre, bon il a connu l'éveil ou Betty la grande joie, elle a de la chance, tout ça c'est faux. Il n'y a pas de chance. Hein. Il y a une phrase du cours, c'est « Le hasard ne joue aucun rôle dans le plan divin ». En anglais, c'est « Chance plays no part in God's plan ». Le hasard ne joue aucun rôle dans le plan divin. C'est ce que disait Einstein aussi, en disant « Le hasard », il disait ça en plaisantant, mais quand même c'est très profond, c'est Dieu qui veut passer incognito. Hein. Le hasard, c'est Dieu qui s'amuse à passer incognito. Voilà. Donc, il n'y a aucun hasard dans le plan divin.
Oui, je voulais juste témoigner pour illustrer un petit peu ce que tu disais à vie, c'est-à-dire que l'expérience des cinq sens et de l'esprit. Donc moi, la manière dont j'ai expérimenté ça, pour moi, l'esprit, d'une certaine, ce qui me venait quand tu parlais, c'est que c'était justement comme une utilisation, une sublimation du mental par une énergie qui est une énergie d'amour. Et je vais vous l'illustrer parce que donc j'ai expérimenté il y a quelques années. Je suis partie me soigner en Amérique latine. Et donc là-bas en Amérique latine, on utilise les médecines ethnologiques, quoi. Enfin, pas qu'en Amérique latine, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, Dieu merci, il y a encore des savoirs ancestraux qui sont très efficaces et qui sont en pratique. Et donc, voilà, il y a des plantes qui sont d'une amertume que tout le monde, comme le livre bleu ou vert, dirait, bah oui, bon. Donc, effectivement, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'à partir du moment où j'ai accepté de dépasser, en fait, on parlait des sens, hein, donc là il s'avère que c'est le goût et l'odorat, de dépasser ce qui communément est perçu par les sens comme quelque chose de, je dirais même, extrêmement répulsif. Et j'ai réussi à le faire parce qu'en fait, il y a une dimension en moi qui, à un moment donné, a lâché prise et a accepté d'accueillir de l'amour. Eh bien, merveilleusement, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, en tout cas, pour d'autres personnes, ça demeurait une épreuve que de prendre ces médicaments thérapeutiques, ces plantes. Et pour moi, il n'y avait plus du tout, j'en étais moi-même étonnée, il n'y avait plus du tout cette aversion qui faisait que bon, c'était vraiment très très difficile. Et donc c'est l'amour à un moment donné, l'acceptation, l'ouverture, le lâcher prise qui fait que on arrive à modifier. Enfin moi, j'ai modifié ma perception olfactive et mes papilles et le goût, quoi. Et même au niveau des intestins et du œsophage, le ressenti était complètement différent. Voilà, c'était juste pour témoigner que voilà, on a tous un corps avec des organes, des nerfs, etc. Mais si dans notre approche de comment on se vit dans ce corps, à un moment donné, on est imprégné d'une ouverture de cœur, bah tout ce qui interagit avec nos cinq sens, finalement, et ben pareil, on peut, comme tu dis, modifier le truc, le disque dur, comme voilà. Voilà, donc et ça, c'était d'autant plus merveilleux que bon, il s'avère que ça a été d'autant plus efficace pour au niveau du traitement, quoi. Voilà.
Pour rester dans le corps, en t'écoutant, il y a une chose qui m'est venue. Un jour, je suis allée voir une sophrologue pour une séance individuelle et à un moment donné, elle me dit « vous allez prendre une grande respiration ». Moi, je dis « oui, d'accord ». Mais avant, vous allez vider vos poumons parce qu'on ne le sait pas, mais il reste toujours de l'air. Et avant de prendre une grande respiration, il faut vider ce qu'il y a. Et j'y pense très très souvent à ça. Ça paraît banal, mais pour moi, c'est un peu une révélation parce que finalement, ces derniers temps, j'ai traversé une période où je n'avais pas une vision claire de la direction dans laquelle aller professionnellement, par exemple, et la seule chose qui m'est venue, j'avais l'impression que tout s'écroulait. J'ai cru que j'allais me désintégrer de peur. C'était la purée de pois. Et en fait, j'ai pensé à ça. Enfin, maintenant, ça m'apparaît évident que avant de faire entrer quelque chose de nouveau, j'allais vider ce qu'il y avait et qui, ça je pouvais faire parce que pour moi ça c'était concret. Alors j'ai commencé par chez moi, j'ai trié, j'ai jeté, j'ai donné, j'ai mis du blanc, j'ai fait rentrer la lumière, j'ai changé les rideaux, c'était des choses simples, je me suis pas ruinée, c'était concret. Et petit à petit c'était pas spectaculaire, mais j'ai commencé à mieux respirer, à parfois voir un peu une lumière au bout du tunnel, parce que parfois j'avais des grands moments de découragement. Et là maintenant, peu à peu, je commence à avoir de la clarté, la clarté qui revient. Et bon, c'est un peu encore clignotant, mais et voilà. Et c'est pour dans ton témoignage m'a fait penser à ça tout à l'heure quand tu disais que tu avais une vision claire et après ça s'estompait, c'était de nouveau la confusion et voilà, et que parfois, avant d'avoir cette vision, avant de l'accueillir, parfois de faire le vide et de s'alléger, de s'occuper de ce qui est sortant et pas entrant, et ben curieusement, moi ça m'a rempli, ça m'a fait revenir la joie, ça m'a fait revenir la joie. Voilà, c'est pas en ayant une vision, mais plutôt en me délestant de ce qui ne m'en faisait plus.
Et puis comme je suis esprit divin qui joue à se croire humain et limité, alors je peux tout à fait jouer le CD-ROM du rêve heureux. Hein, je peux dire à mon ego, mon esprit pur peut dire à ma perception, peut modeler ma perception pour que je vive dans ce monde sans croire à ce monde, sans être du monde. Et c'est avec cette puissance divine-là que je peux transformer l'expérience de la dualité. C'est-à-dire je suis dans la pièce de théâtre en me rendant parfaitement compte que je joue un rôle et je ne crois pas au scénario, mais je suis là pour aider. Je suis là pour aider les frères et sœurs qui sont encore dans la croyance au rôle. Et ça, le rêve heureux, ça témoigne de la puissance de l'expérience humaine. C'est-à-dire que je reste encore sur la scène, mais je commence à jouer un rôle divin sur la scène, dans la matière. Hein, c'est voilà. Ça pour moi, ça porte un formidable espoir, et ça commence toujours par j'ai envie d'être vrai. J'arrête de jouer la comédie avec moi-même. Je respecte mes vrais désirs parce que mes vrais désirs sont d'une importance capitale et chaque chose que je fais va dans la direction d'un vrai désir à moi, d'une vérité. J'arrête de prétendre des choses, j'arrête de jouer moi-même des rôles. Voilà, chaque pensée, chaque phrase que je dis peut être imprégnée de ça. Et peu à peu, c'est comme si le tricot se détricotait. Hein, que tout d'un coup, je vois que c'est que du chiquet. Tout ça, c'est que du chiquet. C'est, je m'aperçois des décors en carton-pâte hein, de la scène. Et puis, j'accepte le carton-pâte et je dis. Eh ben, on continue après que le rideau soit tombé, on continue quand même, hein, on continue à faire semblant d'y croire. Et mon expérience peut devenir, radicalement différente. Voilà, sur ces paroles, on va arrêter l'enregistrement, c'est l'heure d'arrêter. Dans la joie de ce réveil, programmé hein, et qui se manifeste chaque jour un peu plus. Je vous dis au plaisir d'un prochain partage. À bientôt.